Vous écoutez
RMC.
7h passées de 1 minute, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
RMC, Apolline Matin.
Comme un bruit d'explosion, l'éboulement d'un pan de falaise à Biarritz fait un mort et un disparu suspendu hier soir. Les recherches pour tenter de le retrouver vont reprendre ce matin. Plus de 50 millions de Français concernés par la vigilance rouge à la canicule, c'est du jamais vu et les records se succèdent en lien avec cette vague de chaleur qui nous assomme et dont le pic pourrait être atteint ce jeudi. Et les questions encore nombreuses autour de la mort de Liana. L'autopsie du corps de la jeune adolescente n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de son décès.
La mort d'une plongeuse à Biarritz.
Prise au piège par l'éboulement d'une falaise dans la mer. Ça s'est passé hier soir à proximité d'une plage située au cœur de la ville. Un autre plongeur est lui toujours porté disparu ce matin. Grégoire Morelli.
Il est environ 20h hier soir lorsque Jean-Luc Machard-Lavigny, qui se trouvait sur la plage en face de la falaise, assiste à la scène.
On a entendu un énorme bruit, comme une sorte d'explosion on va dire. Et donc très vite on s'est retourné parce que ça a surpris un peu tout le monde. Et donc moi j'ai pu voir les derniers morceaux qui tombaient dans l'eau. C'était immense.
2000 mètres cubes de roche ensevelissent deux plongeurs qui se trouvaient en dessous. Gendarmes, hélicoptères et Zodiac sont alors déployés pour venir en aide aux victimes. Un troisième plongeur a miraculeusement pu en réchapper et être rapidement pris en charge par les secours. Mathieu Duhamel, sous-préfet de Bayonne.
La troisième personne qui est indemne physiquement était hors de la zone d'effondrement mais a été extrêmement choquée.
Dans la soirée, le corps d'une plongeuse a été retrouvé mais les opérations de recherche ont dû être stoppées car d'autres pans de la falaise pourrait encore s'effondrer. Le maire de Biarritz a pris un arrêté pour interdire l'accès, la baignade et la navigation dans un périmètre de 300 mètres autour de la plage.
Il est trop tôt pour dire si cet éboulement est en lien avec la vague de chaleur qui frappe le pays. On a connu hier la journée la plus chaude depuis le début des relevés en 1947, effaçant le précédent record datant de la veille. Pareil pour la nuit qui vient de s'écouler. Le réveil est difficile ce matin et la journée qui s'annonce comme étant le pic de cet épisode avec 72 départements en vigilance rouge devraient éprouver les organismes. Alors certains s'adaptent. Martin Bourdin, vous êtes en direct de Sacla ce matin pour RMC dans cette commune de l'Essonne en compagnie d'un garagiste contraint d'ouvrir avec 2 heures d'avance afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée.
Oui, ici on a commencé à plonger la tête dans les moteurs dès les premières lueurs du jour. Tout le monde au travail à 6h du matin depuis 1h maintenant. Et il fait encore pas loin de 30 degrés dans l'atelier. Ça va évidemment continuer de grimper à cause notamment de ce toit en tôle qui transforme ce garage en cocotte minute dès que le soleil tape un peu trop fort. Hier après-midi, il a fait jusqu'à 49 degrés près des voitures. Je suis avec Thomas, c'est le patron de ce garage. Il est déjà en âge, le pauvre. Thomas, commençait plus tôt pour ne pas travailler l'après-midi. C'était obligatoire là pour vous et pour vos salariés.
C'était plus simple pour eux surtout, parce que avec cette chaleur-là dans l'atelier, c'est un four et c'est inhumain. Et malheureusement, on peut pas se permettre de fermer le garage on arrive en période de vacances, donc tout le monde veut sa voiture pour pouvoir partir en vacances. Donc c'était pour nous pas le choix que de faire comme ça.
C'est un four et en plus il y a des gros tenue vestimentaire qui est lourde à porter.
Malheureusement, ils sont obligés d'être avec leur tenue de travail, chaussures de sécurité, ils peuvent pas être en tongs. Donc ça fait de la chaleur en plus et malheureusement pour eux, oui, c'est très compliqué.
Vous parliez de la charge de travail, Thomas. C'est vrai que si je regarde là, sur le parking du garage, il y a facilement une trentaine de voitures dessus. Il faut faire réviser la voiture en prévision des vacances. Il faut aussi venir faire réparer la clim. C'est l'une des grosses activités du garage en ce moment pour pouvoir évidemment rouler au frais.
Martin Bourdin en direct de Sacla ce matin dans l'Essonne pour RMC. Les conséquences, elles sont nombreuses de cette canicule avec des restrictions d'eau imposées dans le Val d'Oise, des TER suspendus en Nouvelle-Aquitaine de 10h à 18h. La bonne nouvelle, c'est que le courant est rétabli ce matin dans le sud Finistère. Après une longue interruption, jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité. Les commerçants, Rachel Sadodine, n'ont pas été épargnés.
15 heures sans électricité. Patron d'un relais routier, Arnaud n'avait jamais connu une coupure de courant aussi longue. Résultat, le restaurateur installé à Briec a perdu.
Les desserts, les yaourts, le fromage, la salade, le beurre, de poulet, merguez et du rôti. À devoir jeter tout ça à la poubelle, ça fait mal au cœur.
Tout le contenu de ses réfrigérateurs et congélateurs pour un montant d'environ 3 500 euros.
J'ai mon assurance, ils m'ont dit de prendre des photos et fournir les factures des denrées pour être remboursé. Par contre, pour la perte d'exploitation, mon assureur m'a dit que je ne serais pas remboursé parce qu'il faut être fermé 3 jours d'affilée.
Et ce n'est pas le cas d'Arnaud, car même sans électricité, il a décidé de rester ouvert toute la journée d'hier pour ne pas laisser les chauffeurs routiers en proie à la canicule dans leur camion.
J'ai fait un petit café filtre, du gaz, j'ai pu mettre de l'eau à chauffer et puis ils ont pu aller au moins se laver et puis aller aux toilettes.
Solidaire, malgré la galère, comme Marie, son magasin de jouets situé à Douarnenez a lui aussi été privé d'électricité.
J'ai dit aux gens d'aller chercher du cash, sauf que les distributeurs étaient en panne, donc fais confiance aux gens, j'ai fait des crédits.
Chez Marie, le courant a été rétabli hier après-midi et les clients sont revenus payer leur dû.
Et pour la première fois de l'année, 2 départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé en danger très élevé de feux de forêt. RMC, il est 7h06, l'autopsie du corps de Liana n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de sa mort. Le principal suspect de cette affaire, Jérôme Barella, est désormais poursuivi pour meurtre et viol sur mineur. Dans ce dossier, la magistrate du parquet d'Auch, ciblée par une enquête administrative pour ne pas avoir pris en compte la plainte d'une jeune adolescente contre Jérôme Barella l'été dernier, s'estime victime d'une injustice. Devoir de réserve oblige, elle ne peut pas s'exprimer publiquement, mais selon les informations de nos confrères de BFM TV, elle considère avoir fait tout ce qu'elle a pu, selon des échanges avec ses proches. Constance Bostoen.
La substitute du parquet d'Auch assure à ses proches que son sort est scellé. « J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons », leur écrit-elle, alors que le rapport de l'inspection générale de la justice dresse des conclusions sévères à son égard. Entre, je cite, « une perte de temps » ou encore « une absence de prise en compte de l'urgence », son travail sur la plainte déposée par la petite Rosa en août dernier a été disséqué par les inspecteurs qui lui reprochent entre autres un manque de suivi de ce dossier. Si la magistrate concède avoir oublié de cocher la case « urgent » au moment d'envoyer le dossier aux gendarmes, elle vit la situation comme une injustice. « Je ne pouvais pas faire mieux », livre-t-elle dans ses messages. Le Conseil supérieur de la magistrature examinera ses fautes potentielles dans les prochaines semaines. En attendant, elle a l'interdiction de traiter les dossiers concernant des mineurs.
Au moins 32 morts et plus de 700 blessés au Venezuela, frappés par 2 puissants séismes. L'état d'urgence est décrété. Plusieurs bâtiments se sont effondrés au cœur de la capitale, Caracas. Le Maroc et le Brésil qualifiés en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Marocains se sont fait peur. Ils s'imposent finalement face à Haïti. 4-2. Ils poursuivent l'aventure. 2e de leur groupe derrière le Brésil qui écrase l'Écosse. À noter les qualifications également de l'Afrique du Sud. Du Mexique qui termine premier de sa phase de poule. La Suisse et le Canada sont également qualifiés avec la Bosnie assurée de finir dans les meilleurs 3e. Les Bleus, eux, se préparent à affronter la Norvège demain soir en quête de la première place du groupe I, sans Didier Deschamps parti aux obsèques de sa mère en France et Guy Stéphan qui va le remplacer sur le banc. L'adjoint de Didier Deschamps avec lequel il collabore depuis 17 ans maintenant, Florent Germain.
Oui, Guy Stéphan est le véritable bras droit de Didier Deschamps, actif lors des séances d'entraînement, fin tacticien, très pédagogue avec les joueurs. Le fidèle adjoint du sélectionneur a su se rendre indispensable, explique le défenseur Laurent Bonnard, qui a joué sous ses ordres à Marseille.
Et ils ont créé avec Didier Deschamps une relation et un binôme qui fonctionne très bien, qui a une confiance absolue l'un en l'autre. La personnalité de Guy Stéphan va dans le sens d'être entraîneur adjoint et en même temps, Didier Deschamps, qui est oui, le numéro 1, prend un peu plus la lumière effectivement, mais ça lui va bien, c'est un binôme qui, en fait, chacun a trouvé sa place.
Ouais. Il n'y a pas de Didier Deschamps sans Stéphan, disait même récemment Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin, ne garde lui que de bons souvenirs de Stéphan quand celui-ci entraînait les Girondins de Bordeaux.
C'est quelqu'un qui est très apprécié du groupe, en général. C'est quelqu'un qui, footballistiquement parlant, connaît bien son job, tactiquement très à l'aise, à l'écoute des joueurs. Il y a quelques messages à faire passer. En général, ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai jamais eu.
Guy Stéphan, un homme et ami de confiance pour Deschamps, avec qui il reste en contact permanent malgré cette parenthèse très douloureuse liée au décès de sa maman.
France-Norvège, ce sera demain 21h sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC. Vous êtes très très nombreux à nous appeler pour nous dire comment vous faites tout simplement pour affronter cette canicule qui dure. Il y a Thierry qui est en direct avec nous depuis la Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline.
Thierry, vous avez carrément décidé de planter la tente dans le jardin avec votre femme.
Ouais, alors c'était marrant les 2 premiers jours, mais là ça devient la blague, elle est assez dure. En fait, c'est trop long.
Ouais, c'est trop long, c'est trop dur. Vous dormez plus quoi.
Ouais, putain, il fait 31, on dort pas, quoi, on dort pas, il fait chaud tout le temps.
Vous êtes quand même mieux dans le jardin que dans la maison. Il fait combien dans la maison?
À l'étage, tout en haut, il fait 36. Ouais. En dessous, il fait 32. Okay. Et puis il y a pas d'air, quoi. Alors c'est ce qui expliquait les différents météorologues le phénomène de chaleur qui est rentré dans la maison et qui ressort plus, quoi.
Il ressort plus. Voilà, la maison ne se rafraîchit plus.
Non, c'est une vieille maison, pourtant avec des murs qui font 60 cm, mais la chaleur, maintenant, elle est rentrée, mais elle ne veut plus sortir.
Elle ne veut plus sortir, vous ouvrez, j'imagine, la nuit. Donc vous avez sorti quoi, une tente de camping, quoi?
Oui, une tente de camping, on est dehors, au milieu du terrain, et puis avec un ventilateur dans la tente. On dort un petit peu mieux que la maison, parce qu'il y a un petit
semblant d'air. Attendez, vous avez mis une rallonge, vous avez le ventilateur?
Oui, le ventilateur dans la toile de tente. Et puis en plus, moi, j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil, la totale.
D'accord, et donc vous avez sorti vos deux rallonges, une pour le ventilo, une pour l'apnée du sommeil?
Voilà.
Ok, et vous vous réveillez du coup épuisé en fait?
Ah ouais, franchement, ouais. Là, début de semaine ça allait, mais là je suis...
Oui, début de semaine, au début j'imagine que quand on ouais, déplie la tente, marrant, on se dit allez, ça nous fera des souvenirs, bah là plus du tout quoi.
Mais en fait, comme explique souvent le médecin, c'est que bah, le corps il se repose pas la nuit, donc on se lève, on est rincé quoi.
Vous faites quoi dans la vie, Thierry?
Je gère un site internet, mais dans le bureau, il n'y a pas de clim et je suis à 33 degrés. Donc pareil, devant l'ordinateur, c'est dur aussi. Hein.
Oui, donc là, vous partez, mais vous savez que la journée va être très très dure, quoi.
Ouais, je travaille de chez moi encore, ça va, je pars pas. Mais, ouais,
à quel étage, j'allais dire? Parce que donc c'est 36 en haut, 32 au milieu, j'imagine que vous avez descendu l'ordinateur au rez-de-chaussée?
Mais il est vers mon bureau en bas, ouais, je suis à 30.
Bon, allez, bon courage en tout cas Thierry, et merci pour votre témoignage. Comme Thierry, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216. Et puis la canicule, elle tue, et elle tue notamment les sans-abri. Au moins 3 SDF probablement morts de la chaleur ces derniers jours. Bonjour Patrice Nice. Vous êtes vous-même sans domicile fixe. Vous avez créé un média alternatif dans lequel vous racontez justement votre quotidien. Ça s'appelle l'écho du bitume. Pour vous, il faut absolument une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. Un plan grand chaud, comme il existe un plan grand froid. Et vous nous le dites dans un instant sur RMC 7h12.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Enfin, je dis vous êtes bien, non, vous êtes pas très bien justement. Et c'est de plus en plus dur, 72 départements en vigilance canicule rouge, plus de 50 millions de Français qui sont concernés et les sans-abri, grands oubliés. Bonjour Patrice Nice, merci. Bonjour. D'être en direct avec nous. Vous êtes vous-même SDF et vous avez créé le média alternatif L'Écho du Bitume dans lequel vous racontez justement votre quotidien. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. L'hiver, on parle du plan grand froid, il faudrait un plan grand chaud, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce qu'on est capable de débloquer des fonds, de débloquer des hébergements l'hiver pour les sans-abri, et c'est parfaitement normal. La Constitution dit, de 1958 dit que l'État est là pour aider les citoyens dans des événements graves de leur vie. Le sans-abrisme est un événement grave de la vie de quelqu'un, et on doit pouvoir débloquer des solutions, des hébergements, de l'argent. Il y a des choses à faire pour les sans-abri en été, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus de sans-abri qui meurent entre mars et novembre qu'entre novembre et mars.
Oui, on meurt plus de la chaleur hein, parce qu'on ne peut effectivement pas s'en abriter. Comment vous faites d'abord, vous, concrètement, Patrice Nice? Je crois que vous avez trouvé quand même refuge chez votre fils pour quelques jours, c'est ça?
Voilà, jusqu'au début du mois de juillet, je suis chez mon fils qui, lui, est descendu sur l'Aveyron. Et il m'a dit, tu restes à la maison, j'ai pas envie de te voir... comme il m'a dit, j'ai pas envie de te voir canner sur le bord d'un trottoir, quoi.
Ah oui, il vous a dit ça, mais c'est temporaire, mais il vous a laissé son lit, j'allais dire. Comment vous faites après? Est-ce que vous anticipez la suite l'été?
Oh non, la suite est déjà anticipée pour moi, parce que je vais descendre sûrement dans le centre de la France. Je vais essayer de trouver une solution. Il y a des solutions. Je suis ce qu'on appelle une forteresse. Il y a rien qui peut me faire tomber. Et donc, mais il y a aussi des gens faibles dans la rue qui sont moins forts que moi psychologiquement, et c'est surtout eux qu'il faut aider. Moi, j'arrive à me débrouiller, mais c'est les autres qu'il faut aider, parce qu'on les oublie complètement. Le budget pour lutter contre le sans-abrisme baissé dans le budget, ça c'est incroyable. On met de l'argent dans des choses qui sont importantes comme la défense et la police ou la justice, je ne suis pas contre, mais pourquoi on ne met pas plus d'argent pour lutter contre le sans-abrisme?
Il y a eu 3 SDF au moins qui sont morts depuis le début de la canicule. Vous avez le sentiment, vous, que les pouvoirs publics vous abandonnent? Vous voulez interpeller les politiques?
Oui, je veux interpeller les politiques, parce que jamais un SDF n'a été reçu au ministère du Logement, au ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité, à Matignon ou à l'Élysée. Pourquoi on nous refuse l'accès à ces politiciens et à ces membres du gouvernement?
Alors ça, pour le coup, moi, je peux faire passer le message, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve important, et je peux vous assurer, et j'en prends l'engagement auprès de vous, que lorsque je recevrai le ministre du Logement, je lui parlerai de cela et je lui donnerai également vos coordonnées. La question maintenant, c'est aussi, c'est ce qu'on fait dans l'urgence. Est-ce qu'il faut ouvrir les églises, l'église, les gymnases, les lieux où il peut encore y avoir un peu de fraîcheur, en priorité au SDF ?
Les églises sont déjà ouvertes.
D'accord.
Ça a été décidé par l'évêché de France, je crois. Ils ont décidé d'ouvrir toutes les églises et les cathédrales pour que les sans-abri puissent se mettre au frais. Il y a des bibliothèques qui sont ouvertes, mais uniquement la journée, pas la nuit. Voilà. Et la nuit, parfois, il fait aussi chaud que le jour. Il y a d'autres solutions aussi. L'accès aux piscines, par exemple, une piscine, c'est payant. Pourquoi, par exemple, si une personne est SDF, pourquoi elle ne pourrait pas aller à la piscine? On lui prête un maillot de bain, la personne peut être au frais. Ça peut lui faire énormément bien. Il y a énormément de solutions. Il y a aussi beaucoup d'associations qui œuvrent. Il y a des citoyens et des citoyennes qui œuvrent aussi tous les jours, qui vont distribuer de l'eau, qui vont donner à manger aux sans-abri. C'est très bien. Mais le gouvernement doit faire beaucoup plus. On doit augmenter le budget de la lutte contre le sans-abrisme à 10 milliards minimum.
On se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron en 2018. Il avait dit « Tous les sans-abri auront un toit ». Vous n'y avez jamais cru?
Il a dit exactement, je ne veux plus voir personne dehors avant la fin de l'année, mais il n'a jamais précisé quelle année. Hein. Voilà, donc 10 ans après, presque rien n'a avancé. Le nombre des SDF a doublé. Tout le monde dit 350 000 SDF, mais c'est le chiffre qui est des gens qui sont hébergés dans des CHRS ou des CHU. Mais il y a aussi d'autres formes de sans-abrisme. Il y a des gens qui sont dans des toiles de tente, il y a des gens qui sont dans des camping-cars, il y a des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle des camtars, des camions aménagés. Vous avez aussi des gens qui sont SDF que vous croisez dans la rue, vous ne savez pas s'ils sont SDF. Voilà. Il faut faire énormément de choses. Il ne faut pas oublier ces personnes qui sont à la rue. Ce sont des citoyens et des citoyennes à part entière et non pas des citoyens et des citoyennes à part. Nous avons les mêmes droits que les autres. Nous réclamons simplement l'application des mêmes droits que les autres. Et nous réclamons aussi, une chose importante, l'application entière de l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition des logements qui dit que tout élu peut réquisitionner un logement social ou privé, vide, et sera indemnisé par l'État. Il faut simplement appliquer ça. Ça a été repris dans la loi Habitation et dans la loi Dalo.
Il faut maintenant l'appliquer. Et c'est effectivement toujours la difficulté. On a l'impression d'un décalage, effectivement, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir témoigné ce matin. Patrice Nice, vous êtes journaliste SDF. Votre média, ça s'appelle L'Écho du Bitume. Ne nous oubliez pas. Voilà aussi l'alerte que vous lancez ce matin pour ce plan grand chaud, comme il y a un plan grand froid. Il est 7h20 sur RMC. On va remonter le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un sommet France-Italie cet après-midi. L'histoire de nos deux pays intimement liés.
Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque sans la France, l'Italie n'existerait tout simplement pas. C'est un emprunt français qui a permis sa création.
Vous nous le dites dans un instant. Je vous redonne, tiens, l'invité du face-à-face, notez-le, à 8h30. Je reçois le patron des magasins Intermarché, Thierry Cotillard. Les ventilateurs, les climatiseurs s'arrachent. Difficile aussi parfois de trouver des glaces et des produits frais dans les supermarchés. Le changement aussi de nos modes de consommation et les prix. Toutes les réponses, vous les aurez à 8h30. Il est 7h21 sur RMC. On se retrouve dans 60 secondes.
RMC. Apolline Matin.
Il est 7h22 et comme chaque jour, on va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, cet après-midi, Emmanuel Macron reçoit la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes.
Oui, un sommet diplomatique qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le traité du Quirinal. C'est un traité qu'on a signé il y a 5 ans, à Rome, avec l'Italie donc. Et le but, c'était d'améliorer la relation entre nos deux pays, renforcer la coopération dans tous les domaines. Et cette année, la priorité d'Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni, ça sera les infrastructures de circulation, notamment le tunnel transfrontalier du Fréjus et les lignes de train entre les grandes villes, comme celle qui relie Lyon à Turin.
Entre la France et l'Italie, c'est une très très vieille histoire.
Oui, et figurez-vous que sans la France, Apolline, l'Italie n'existerait même pas. C'est pas une façon de parler. Alors pour comprendre, il faut remonter très loin en arrière. Nous sommes au milieu du 19e siècle et à cette époque, l'Italie n'existait pas en tant que pays, cette péninsule, c'était juste un ensemble de petits états indépendants qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. Et la plupart de ces états étaient dominés par un immense empire qui était au nord, l'Empire d'Autriche. Sauf qu'un jour, ils décident de se libérer de cette domination.
Et c'est là que la France entre en jeu.
Oui, notre chef d'état à l'époque, c'est un empereur, Napoléon III, et il va décider d'aider ces états italiens à se libérer des Autrichiens et à s'unifier pour former un vrai pays. Donc il signe un traité avec le leader de l'indépendance italienne, c'était le roi de Sardaigne, il s'appelait Victor Emmanuel II. C'était la première alliance de l'histoire entre la France et l'Italie.
Donc là, une guerre commence?
Exactement, avec d'un côté France-Italie, de l'autre l'Autriche. On envoie 170 000 soldats français dans la péninsule, c'était énorme. La campagne va être triomphale, on va gagner beaucoup de batailles contre les Autrichiens Et en 1860, victoire, le royaume d'Italie est proclamé. C'était donc la naissance très formelle de l'Italie. Alors ça rassemblait toute la péninsule, sauf la région de Venise et la ville du pape, Rome, qui seront rattachées quelques années plus tard.
La France a, elle aussi, gagné quelque chose avec l'indépendance de l'Italie.
Et oui, quelque chose d'important, puisqu'en échange de son aide décisive, le nouveau roi d'Italie nous a carrément cédé une partie de son territoire. On a récupéré une région entière, la Savoie, et surtout une des plus grandes villes de la Méditerranée, la ville de Nice, qui devient donc française à cette occasion. Donc forcément, tout ça crée des liens que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron devront faire vivre pendant ce nouveau sommet qui a lieu aujourd'hui.
Merci Arthur, Arthur Chevalier, qui nous permet de remonter le temps chaque jour sur RMC. Il est 7h24, Arnaud Demange ne peut pas être là avec nous ce matin, mais on en garde le meilleur à 8h15. Il sera donc encore un peu avec nous malgré tout. Et puis surtout, je voulais vous le dire, c'est le moment de jouer. Vous l'attendiez cette alerte, parce que vous le saviez, il y a 50 000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 000 euros dans la prime de match. Souvenez-vous, on avait mis 30 000 euros au départ, on a rajouté 500 euros à chaque but gagné. Et au moment où on se parle, il y a donc 50 000 euros de prime de match. Cette somme, retenez bien, parce qu'elle sera à vous si, quand on vous appelle, vous êtes en mesure de donner le montant de la prime de match, 50 000 euros. Pour ça, il faut vous inscrire, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 7h25, vous avez donc jusqu'à 7h35. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et juste après cette question, dans un instant, il y aura la météo et le journal. Et puis, comment travailler sous ces fortes chaleurs? Il faut un droit de retrait climatique. Voilà ce que demande la CGT. La patronne de la CGT, Sophie Binet, est l'invitée d'Apolline Matin dans 10 minutes sur RMC. À 7h50, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Elle viendra nous dire que les mesures d'adaptation ne suffisent pas, qu'il faut carrément changer de système. Oui, mais comment? Je lui pose la question, évidemment. Ce sera à 7h50. À tout de suite sur RMC, 7h26.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des élèves qui saignent du nez, d'autres qui font des malaises. La chaleur pèse de plus en plus en classe. Certains syndicats appellent à fermer les écoles primaires. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage exclusif de Manon, renversée il y a 3 ans à Saint-Malo par un chauffard récidiviste dont le procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis le Maroc a souffert mais rejoint bien les 16e du mondial. Victoire 4-2 contre Haïti.
Des températures déjà étouffantes au réveil.
La nuit a été courte pour 51 millions de Français qui sont concernés par cette vigilance rouge. Canicule aujourd'hui après une journée de tous les records. Hier, plus de 43 degrés enregistrés en Vendée. 11 départements vont repasser en orange ce soir, mais la chaleur ne va pas se dissiper tout de suite. Et le stress grandit chez les enseignants. Des syndicats réclament la fermeture des écoles dans les départements en vigilance rouge, car il est impossible de faire classe quand il fait 35 degrés dans la pièce. C'est le cas de Sylvie, institutrice dont plusieurs élèves ont fait des malaises cette semaine.
Maux de tête, maux de ventre, vomissements et 3 élèves qui ont saigné du nez en classe de CP. Moi, sur mes élèves, j'ai beaucoup d'absents, mais quand même un vrai malaise ce matin. Sur l'école, on a une 15aine d'élèves lundi, mardi qui ne se sont pas sentis très bien et qui ne sont pas revenus. C'est un stress parce qu'effectivement, on se sent quand même un petit peu seul. Il peut y avoir des premiers signes de déshydratation qui peuvent nous échapper parce qu'on n'est pas médecin. Donc, c'est un stress et c'est une vigilance de tous les instants.
Chaleur exceptionnelle qui provoque des situations jamais vues comme ces incendies dans l'Allier, le Maine-et-Loire ou encore le Lot-et-Garonne où près de 100 hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Feu qui s'est propagé à cause du temps chaud et sec, repéré relativement rapidement grâce à des caméras dont s'équipent de plus en plus de départements. Marion Gauthier l'a constaté auprès des pompiers de Gironde.
Un petit bureau de verre recouvert d'écran, la concentration de 3 pompiers.
Voilà, donc là tu vois, t'as Arcachon. On a l'impression qu'on est au cœur de la saison feu de forêt alors qu'elle est censée débuter.
Souligne le commandant Julien Dulot, 132 caméras détectent des fumées dans les massifs forestiers et les alertes tombent chaque minute.
Ça peut être une fumée liée à des travaux agricoles, de la poussière.
Ici on vient recevoir une alerte.
Thomas Guillaumard analyse donc, les vidéos des caméras, les cartes.
Un départ de feu sur la commune de Gaillan-Médoc.
La caméra qui a détecté, c'est 6 minutes avant
avant le premier appel.
Oui, dans les 6 minutes, effectivement, c'est conséquent sur un départ. Plus on arrive tôt sur les lieux et moins le feu il a de l'ampleur. Et surtout avec les conditions météo que l'on a aujourd'hui, chaque minute est comptée sur l'engagement des secours.
Mais il faut aussi les préserver. Avec une végétation déjà très sèche, l'été risque d'être long.
Une autre alerte qu'on vient d'avoir.
Le but ici, c'est d'avoir une bonne répartition sur l'engagement des moyens, de ne pas surengager et au contraire, de ne pas sous-engager sur des situations opérationnelles.
200 à 300 pompiers sont répartis chaque jour sur le territoire, prépositionnés pour intervenir plus vite.
Et en Nouvelle-Aquitaine, notez qu'il n'y aura aucun train TER aujourd'hui et demain entre 10h et 18h. La SNCF dit vouloir préserver au mieux les installations ferroviaires. Il est encore trop tôt pour établir un lien avec la canicule, mais un pan de falaise s'est effondré hier à Biarritz dans le sud-ouest, sous le phare au niveau de la plage du Miramar. Des rochers se sont détachés avant de s'écraser dans la mer. Une plongeuse est morte, un autre est toujours recherché.
Et puis un témoignage exclusif ce matin sur RMC, celui de Manon, une adolescente victime d'un chauffard récidiviste.
Un octogénaire dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Saint-Malo en Bretagne. Il est jugé pour avoir renversé donc Manon et son grand-père il y a 3 ans. Le grand-père en est décédé et ses proches sont d'autant plus en colère que le conducteur avait déjà fauché un piéton 3 mois plus tôt. Pierre Bazin a rencontré cette adolescente blessée lors de cet accident.
Oui, le jour de l'accident, Manon a 13 ans, elle accompagne son grand-père pour quelques courses. Les vacances de l'adolescente commencent à peine, mais elles virent au drame.
Je vois une voiture au loin et je réalisais pas qu'elle s'arrêtait pas. C'est mon grand-père qui a pris tout le choc de son côté et qui m'a protégée de la voiture. Sans mon grand-père, j'aurais pas été devant vous aujourd'hui. J'avais des côtes cassées, mon poignet aussi, et avec le choc, je réalisais pas que j'étais blessée. J'ai eu beaucoup de haine, de tristesse.
Des sentiments décuplés lorsque la famille de Marcel apprend que le conducteur a déjà fait une victime.
Pourquoi est-ce que cet homme a repris le volant alors qu'il avait déjà au préalable tué quelqu'un 2 mois avant sur cette même route? Ça a vraiment bouleversé nos vies et j'espère qu'il reprendra plus jamais le volant pour pas faire d'autres victimes et détruire d'autres familles.
Séverine, la mère de Manon, découvre qu'à l'époque, ni le préfet ni la justice n'ont jugé nécessaire de retirer le permis de conduire de l'octogénaire dès le premier drame.
Il y a un raté quelque part. Peut-être qu'on aurait pu l'empêcher de conduire, cet homme. Enfin, je sais pas, on peut tuer aujourd'hui et puis il se passe rien.
La famille de Marcel compte attaquer l'État pour faute lourde. De son côté, l'avocat du conducteur explique que son client se pensait capable de reconduire avant qu'on lui diagnostique des problèmes de vue au cours de l'enquête.
Témoignage RMC recueilli par Pierre Bazin du service police-justice. La panique dans les rues de Caracas au Venezuela. Les habitants cherchent leurs proches après 2 tremblements de terre cette nuit de magnitude supérieure à 7. Des immeubles se sont effondrés. L'aéroport de la ville est fermé. Au moins 32 morts et plus de 700 blessés selon la présidente par intérim. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Plus de détails dans le journal de 8h.
À la Coupe du Monde, une soirée parfaite pour le Brésil.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Brésil qui termine en tête de son groupe après s'être imposé facilement 3-0 contre l'Écosse avec un doublé de Vinicius, match marqué aussi par le retour de Neymar sur le terrain. Le Brésil devant le Maroc, qualifié aussi grâce à sa victoire 4-2 contre Haïti. Les Marocains ont été accrochés mais ont su inverser la tendance, se félicite le capitaine Achraf Hakimi.
On savait que c'était un match pièce pour nous. Et on sait que Haïti, il a rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Il voulait marquer son premier but dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils sont surpris, nous, avec le premier but. Moi, je suis très content et fier pour le travail de l'équipe avec le spirit qu'on a sorti. On a revenu que c'était pas facile, même 2 fois. Et on espère que ça se donne en force, en plus pour la suite.
Et pour l'équipe de France, il suffirait un match nul demain soir contre la Norvège pour terminer premier de leur groupe. Coup d'envoi 21h, vous le vivrez évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Laval ce soir, départ 20h45.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Love de Cerise. L'outsider, c'est le 8, Lovina Perrine, le 3 et le 8.
C'était le journal de Clara Gabi et il est 7h36 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
72 départements en vigilance canicule rouge, plus de 50 millions de Français concernés et des salariés parfois sous 40 degrés. Sophie Binet est mon invitée dans un instant, secrétaire générale de la CGT. Elle réclame la création non pas d'un congé climatique comme le demandent les écolos, mais d'un droit de retrait climatique. Elle nous explique de quoi il s'agit dans un instant. Elle répond à mes questions mais aussi aux vôtres. N'hésitez pas à m'appeler. Vous souffrez peut-être au boulot. Est-ce que vous auriez besoin de ce droit de retrait climatique? Ou alors si vous êtes, tiens, patron dans le les TP notamment, ou dans la grande distribution, ou dans le commerce, ou sur les routes. Appelez-moi au 3216. Dites-moi comment vous feriez, et si vous estimez qu'il serait souhaitable ou pas du tout d'avoir un congé climatique ou un droit de retrait climatique. J'attends votre réaction au 3216. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La question de l'équation entre travail et canicule, de plus en plus difficile. Des ouvriers du BTP qui travaillent sous 40 degrés, des cuisiniers là où la chaleur affole les thermomètres, des chauffeurs de bus qui brûlent au volant littéralement. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT et face à la canicule qui se poursuit partout en France, vous demandez des mesures d'urgence, vous demandez un droit de retrait climatique. C'est quoi ?
En fait, c'est un système qui permet de protéger la santé des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Le Code du travail ne prévoit pas de température maximum au-delà desquelles l'employeur est obligé d'adapter le travail. Donc, il faut changer le Code du travail pour le prévoir. Il faut que dans tous les territoires, les préfets mettent en place des réunions d'urgence, que dans tous les territoires en vigilance rouge, les préfets interdisent le travail en extérieur l'après-midi. Aujourd'hui, il y a 72 départements en vigilance rouge. Il y en a seulement 6 dans lesquels le travail en extérieur est interdit. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'on demande à des ouvriers dans le BTP, à des ouvriers agricoles, de travailler en extérieur par 45 degrés.
Alors, dans les faits, on l'a bien vu, il y a un certain nombre d'aménagements qui se font, mais c'est au cas par cas, c'est selon la bonne entente aussi entre patrons et salariés, dans le BTP comme dans le monde agricole. Vous, vous demandez à ce que ce soit automatique, c'est-à-dire que à partir de quelle température, j'ai vu que vous parliez d'une température convenable. Si la température convenable est dépassée, alors il faudrait pouvoir exercer ce droit de retrait. C'est quoi une température qui ne serait plus convenable ?
En fait, tout simplement, c'est les seuils qui sont définis par les chercheurs, par l'INRS, c'est-à-dire 28 degrés pour les travaux physiques. Donc ça, c'est vraiment la recherche qui montre qu'à partir de 28 degrés, c'est dangereux de faire un travail physique, et 30 degrés pour un travail sédentaire. Et donc, à partir de ces températures-là, l'employeur doit être obligé d'adapter le travail. Ça existe déjà des secteurs où on travaille à plus de 28 degrés, notamment, par exemple, quand on est fondeur, quand on travaille dans une fonderie, on travaille à côté d'un four à des centaines de degrés, mais il y a des mesures d'adaptation, avec plus de pauses, avec une réduction du temps de travail, avec des mesures de pénibilité, etc. En fait, il faut mettre en place ça partout.
On est d'accord, Sophie Binet, que c'est pas le droit au congé climatique. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours qu'on parle beaucoup de cette histoire de congé climatique qui est proposée par les écolos. Ils parlent de 4, 5, peut-être 6 jours de congé climatique dans l'année en cas, effectivement, de très grandes perturbations. C'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un dispositif de chômage partiel intempérie. On l'a obtenu l'année dernière, mais seulement pour le secteur du bâtiment, et avec une grosse perte de salaire, puisque en gros, on a 60% du salaire seulement, alors qu'on n'est pas responsable de l'interruption du travail. Et donc, il faudrait une garantie de 100% de salaire, et il faudrait que ce dispositif puisse être actionné dans tous les secteurs. Il n'y a pas que le bâtiment qui a besoin de pouvoir s'arrêter dans les périodes de
pénurie. Mais Sophie Binet, vous n'êtes pas favorable au congé climatique ?
Ça dépend, ça doit se discuter, mais seulement 5 jours par exemple dans le bâtiment ou dans l'agriculture, ça suffit pas par exemple. Donc c'est pour ça que nous, on demande plutôt un dispositif de chômage partiel intempérie rémunéré à 100%, qui permette dans les endroits où il faut arrêter l'activité de le faire sans qu'il y ait de pénalisation des travailleurs.
Chômage partiel intempérie et ce droit de retrait effectivement en fonction des grosses chaleurs. Il y a Hervé qui nous a appelé de Seine-Saint-Denis, vous êtes à Montreuil, bonjour Hervé.
Bonjour Apolline.
Hervé,
bonjour,
je crois que vous avez longtemps travaillé dans le BTP et vous travaillez maintenant dans la restauration. Donc vous avez les deux expériences. Comment ça se passait dans le BTP? Comment ça se passe aujourd'hui dans la restauration? Dites-nous.
Moi, dans le bâtiment, j'avais eu la chance de tomber sur des patrons. C'était cool parce que quand ils avaient des grosses chaleurs, ils ont commencé de bonne heure avec l'accord de tous les collègues. 5h du matin pour finir à midi, parce que sur les échafaudages c'est impossible, et comme j'étais dans la peinture en plus, vous imaginez bien par cette chaleur, la peinture de ravalement séchait automatiquement. J'ai des collègues couvreurs pareil qui commençaient à 4h du matin.
Ça se faisait en bonne intelligence.
Voilà, c'est ça. Il faut que les patrons soient cool et travaillent en bonne intelligence, parce que sinon c'est pas possible.
Je vais vous réinterroger sur la restauration, mais tout de suite je voudrais que Sophie Binel puisse réagir. Faut que les patrons soient cool.
Bah, c'est ça le problème en fait. C'est
alors il y en a quand même.
Hein. Bien
on a
sûr.
De nombreux témoignages depuis plusieurs jours de gens qui travaillent dans l'agriculture, dans le BTP, qui nous disent on s'est adapté, on travaille plus tôt, le patron est cool, à midi on rentre chez nous.
Bien sûr, notamment les patrons dans les petites entreprises qui sont sur le terrain comme les salariés et qui vivent la chaleur pareil. Le problème c'est qu'on a un certain nombre de grands patrons qui vivent dans une réalité parallèle et qui passent de salle climatisée en salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce que c'est sur le terrain. Et je rappelle que c'est pas une question de confort en fait, c'est une question de vie ou de mort la chaleur. Dans le dernier épisode de canicule, il y a par exemple un ouvrier qui s'appelle Daniel, qui s'appelait Daniel, qui avait 19 ans, qui était couvreur et qui est mort.
Qui est mort.
C'était au mois de mai. Il avait 19 ans. Et je sais qu'il y a eu d'autres cas qui ne sont pas recensés. Donc là encore, dans cette canicule, il va y avoir des morts au travail. Tout ça parce que les mesures d'anticipation n'ont pas été prises. Nous sommes extrêmement en colère de ça.
La responsabilité pour vous, elle incombe aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a des morts au travail, et il y en aura, dites-vous, la responsabilité en incombe au gouvernement de ne pas avoir su protéger, de ne pas avoir donné ses règles.
Au patronat d'abord, hein, c'est lui qui a la responsabilité. Il y a un décret qui existe depuis un an qui n'est même pas appliqué, puisque ce décret, il impose que toutes les entreprises prennent des plans de prévention. Dans la majorité des entreprises aujourd'hui, il n'y a pas de prévention canicule. Et puis au gouvernement ensuite, évidemment, qui fait l'autruche, qui vit dans une réalité parallèle et qui ne prend aucune mesure à la hauteur. Je rappelle que dans le dernier budget, ils ont divisé par 3 le budget lié à l'adaptation climatique.
Le plan vert, comme ils disent. Hervé, maintenant, vous êtes vous-même patron, je crois, puisque vous êtes devenu manager en restauration. Alors, est-ce que
ouais,
vous
manager,
protégez... Est-ce que... Alors, ouais. Quasi patron, j'allais dire. Comment vous faites? Vous les protégez? Comment vous faites pour vous adapter dans la restauration à ces extrêmes chaleurs?
J'ai pas le droit, en fait, je suis pas décisionnaire là-dessus. Maintenant, je pense que au niveau de la restauration, il faudrait une loi vraiment effective pour tous les restaurants, parce que quand je vois les patrons qui imposent des chimistes fermés jusqu'en haut, 40 degrés, manchong, c'est pas possible. Enfin, moi, je me suis battu plusieurs fois avec des patrons pour pouvoir au moins remonter les manches. Et les pauvres cuisiniers dans les cuisines de Paris, qui sont la plupart du temps encavés, où il fait plus de 50 degrés. Et
à côté des fourneaux.
À côté des fourneaux, des fois, on monte à 65-70 degrés. C'est pas possible. J'ai vu plusieurs collègues faire des malaises. Ça, il faudrait vraiment une loi globale. Surtout, alors je sais que ce serait un manque de chiffre d'affaires pour les patrons, mais ce serait une solution à envisager quand les températures extérieures dépassent 40 degrés.
Merci beaucoup Hervé, je voudrais justement que là-dessus vous puissiez réagir Sophie Binet. On en est là quand même, on a Hervé qui nous dit qu'il a dû plusieurs fois s'engueuler avec des patrons juste pour qu'on accepte de remonter les manches.
Mais oui, mais vous savez que dans un certain nombre de supermarchés, les caissières sont obligées de mettre leur doudoune pour qu'on voit la marque du supermarché. On en est là quand même au travail.
Dans quel supermarché, pardon, mais je vous pose la question puisque je reçois tout à l'heure le patron d'Intermarché.
C'était notamment, je crois, le cas à Auchan. J'ai pas les noms en particulier.
Je poserai la question en tout cas au patron d'Intermarché qui m'a invité à 8h30.
Il y a des tenues de travail qui ne sont pas du tout adaptées avec des exigences complètement hallucinantes qui sont imposées aux salariés.
Le ministre du Travail hier, Jean-Pierre Farandou, il disait on ne va pas mettre le pays à l'arrêt parce qu'il fait 30 degrés.
Non mais d'abord j'ai envie de lui dire à Monsieur Farandou qu'il fait pas 30 degrés, il fait 45 degrés. Donc déjà il faut qu'il atterrisse par rapport aux températures effectives. Et ensuite sa responsabilité de ministre du Travail, c'est de protéger la vie des travailleurs et des travailleuses. On a eu une réunion hier à la demande de la CGT. Il y a une table ronde qui s'est réunie sur la question de la canicule. Je leur remercie d'avoir organisé cette table ronde très rapidement.
Et c'était à votre demande d'ailleurs.
Tout à fait. Le problème c'est qu'en fait dans cette réunion il nous a juste donné rendez-vous à l'automne. La question c'est est-ce que l'objectif du gouvernement c'est de présenter son plan canicule à Noël. Enfin, c'est la deuxième canicule de l'été. On est au tout début de l'été. Il va y en avoir encore une grosse série. On sait que dans 10 jours, il y en a une nouvelle. Donc, il faut absolument prendre des mesures d'ensemble.
Une question encore, parce que justement Jean-Pierre Farandou, je le recevais il y a quelques jours sur RMC, je l'interrogeais sur ces fameux tests salivaires. C'est Sébastien Lecornu qui a dit qu'il fallait montrer l'exemple et donc accepter des tests salivaires. Il le fait dans les ministères et il disait, et pourquoi pas le faire dans le monde du travail. Patrick Martin, le patron du MEDEF, disait que c'était un véritable fléau, la drogue au travail, et qu'il n'était pas contre l'idée éventuelle de tests salivaires réguliers dans les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
L'enjeu, c'est d'avoir un vrai plan de prévention contre les addictions qui, effectivement, augmentent. C'est un problème de fond. Par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été scandalisée par les propos de Patrick Martin qui expliquait que c'était à cause de la drogue qu'il y avait une bonne partie des accidents du travail. En France, on a le bonnet d'âne. Il y a 3 ouvriers par jour qui meurent au travail. C'est pas parce qu'ils sont drogués. C'est parce qu'il n'y a pas de mesures de prévention dans les entreprises. Et donc, moi, ce que je tiens à dire dans cette période très grave, c'est que si le gouvernement et le patronat ne prennent pas leurs responsabilités, la CGT, elle prend les siennes. Et donc, ce que nous avons fait à Stellantis hier, ce que sont en train de faire les chauffeurs de bus...
Je crois qu'il y avait une poignée de grévistes.
Oui, mais en attendant, le fait qu'il y ait cet appel à la grève et qu'il soit médiatisé, ça a imposé la direction.
Oui, enfin, on en a plus parlé dans les médias que
oui,
dans l'usine.
Mais sauf que déjà, il y a déjà eu des mesures d'adaptation grâce à ça.
Pouvez-vous me dire combien il y avait de salariés en grève
hier? Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ça, il y a des mesures d'adaptation qui ont d'ores et déjà été mises en place dans l'entreprise qui n'étaient pas prévues.
Je vous pose la question, avec des pauses supplémentaires. Hier à Stellantis,
l'enjeu, c'est surtout parce que quand on fait grève, on perd de l'argent. Donc, les gens n'ont pas envie de perdre de l'argent juste pour ne pas mourir au travail.
Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils ne vous suivent plus?
Mais non, c'est en fait
ils étaient moins de 10, je crois.
Oui, non mais d'accord, mais aujourd'hui les travailleurs
Stellantis moins de 10.
Les Stellantis Mulhouse, les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas mourir au travail et c'est quand même tout à fait naturel et logique. La CGT ne laissera pas faire et grâce à cet appel à la grève, on a forcé la mise en place de mesures d'adaptation du travail.
Et vous
et ça nous allons le faire partout si le gouvernement et le patronat ne prennent pas leurs responsabilités. J'appelle les travailleurs et les travailleuses à s'organiser et à se syndiquer pour ne pas laisser leur vie au travail.
Vous prendrez vos responsabilités, c'est ce que vous nous dites. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Et cette demande donc de ce droit de retrait, effectivement, ce droit de retrait en cas de très forte chaleur. C'est l'heure de la voix de gauche, on est jeudi, c'est Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, dans un instant, vous allez nous le dire, vous êtes dégoûtée, c'est le mot que vous m'avez dit. Oui. Saoulée, c'est le mot que vous m'avez dit, de ne pas avoir été suffisamment écoutée ces dernières années.
En fait, ça fait 25 ans que je suis une écologiste qui parle dans les médias, ça fait 25 ans qu'on alerte sur ce qui va se passer très précisément. Et ça fait 25 ans que c'est sous l'asile, les critiques. Et donc oui, je suis énervée. Je pense qu'on a le droit de l'être, tout en étant résolue à ce que ça change.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec une info majeure pour les gamers.
Oui, qui reconnaissent en quelques notes les ambiances du jeu GTA. Grand Theft Auto, le jeu vidéo où vous incarnez un criminel qui gravit les échelons du grand banditisme dans des univers inspirés de grandes villes américaines. Et GTA 6, c'est peut-être le jeu le plus attendu de la décennie. La sortie a été maintes fois repoussée. Les fans attendent de bande-annonce en bande-annonce, d'extrait en extrait, 13 ans après GTA 5. Désormais, on le sait, la sortie, c'est le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais surtout, depuis minuit, vous pouvez précommander le jeu. Les joueurs ont le choix entre plusieurs éditions avec des contenus numériques exclusifs. Les premiers acheteurs ont des bonus, des véhicules, des tenues, des accès à GTA+, le service en ligne du jeu. Selon les versions, il faut débourser entre 80 et 100 euros pour le jeu qui sort le 19 novembre. GTA 6 s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
C'est jeudi et c'est la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Mardi, vous nous alertiez à propos des risques de la canicule sur les infrastructures, sur les réseaux électriques. Près de 120 000 foyers ont été privés d'électricité ces derniers jours en Bretagne, dans le Vaucluse, en Gironde. Il en reste quelques milliers ce matin. En fait, ça fait un grand bout de temps que vous alertez.
Oui, mardi, je vous expliquais que le risque, c'est que les réseaux électriques ne tiennent pas, et notamment les transformateurs. Et je ne suis pas un génie, Madame Irma. Il suffit juste de lire des rapports qui sont très documentés. C'est la même chose.
Vous le disiez mardi climatique. Et mercredi, en effet, on en a eu l'illustration.
Exactement. Et je peux vous dire d'ailleurs que maintenant, ce sont les armoires fibres qui sont menacées. Donc ceux qui ont envie de regarder la Coupe du Monde, préparez-vous à avoir un poste de radio parce que peut-être vous allez devoir l'écouter à la radio, la Coupe
sur
du Monde.
Sur RMC, évidemment, radio officielle de la Coupe du Monde.
Au-delà de la blague, la réalité, c'est que c'est insupportable d'avoir raison, en fait. Je me suis levée ce matin à 5h du matin, il faisait 29 degrés et ça m'agresse parce que je me dis, en fait, tout ça, c'est pas une fatalité. Tout ça, c'était évitable. Les scientifiques ont bien expliqué et on a surtout expliqué comment on pouvait faire autrement. Mais les archives vont être cruelles parce que regardez toutes les interviews et les débats avec les écologistes. Moi, je me souviens des moqueries. Je me souviens de dire oh, ça va, 2 degrés de plus, on enlèverait un pull. Mais enfin, et on expliquait non, ce sera des vagues de canicule, ce sera des vagues de canicule mortelles et tout le monde rigolait. Donc, j'essaye de pas être en colère parce que je pense qu'il faut transformer cette colère en action, mais quand même, il y a des responsables à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et je pense que l'histoire sera sévère à leur égard.
Il y a une prise de conscience collective là quand même.
Il y a encore des tentatives d'évitement et je voudrais revenir sur l'histoire de la climatisation. J'ai jamais été contre la climatisation parce qu'il faut protéger les plus fragiles, mais quand il y a plus d'électricité, il y a plus de clim. Là, à la Défense, la centrale de froid de la Défense. Son responsable a dit qu'ils étaient plus sûrs de pouvoir assurer la climatisation.
Son responsable, c'est l'ancien secrétaire général de la planification écologique.
Ben oui, évidemment, mais alors là, je vais vous dire, c'est pas parce que vous savez ce qui va arriver que vous êtes capable de pouvoir trouver les solutions. C'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur préserver les plus fragiles et les gens qui travaillent. Sophie Binet avait 100% raison, je rappelle, plus de morts de moins de 45 ans que de plus de 45 ans lors de la canicule de mai. Mais surtout, il faut s'attaquer au modèle. Et je le dis, les yeux dans les yeux d'Emmanuel Chypre. Il faut
Emmanuel Chypre qui vient d'entrer dans ce studio et qui est tout de suite alpagué.
Il faut la sobriété. Il faut arrêter de gaspiller de l'énergie. Il faut réussir à avoir un autre modèle économique. Parce que dans les années 80, quand on a commencé à lancer l'ultra gaspillage, c'est-à-dire qu'on a inventé l'idée de faire des emballages en plastique jetables plus grands que ce qu'ils contenaient pour donner l'impression qu'il y avait plus de choses. On a cramé notre planète pour rien ou pour des bénéfices d'ultra court terme. Et donc, il faut absolument changer de modèle. Et à la même époque, il y a des gens qui, justement, s'étaient dit, on va travailler sur le recyclage, la réparation, le réemploi, l'économie circulaire. Je le dis parce que je suis très fière d'avoir été élue la présidente de la Fédération Envie, mais depuis les années 80, il y a des pionniers. Et il faut les écouter maintenant. Il ne faut pas seulement s'occuper d'adaptation, mais il faut faire baisser drastiquement nos émissions.
Ça veut dire qu'il faut aussi la décroissance, il faut aussi la sobriété.
La sobriété, ça veut dire arrêter de cramer nos ressources fossiles qui, en plus, dégradent la planète. On n'a pas le choix que de faire les deux. Et c'est possible, hein, ça a été très documenté par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. La France a une grosse part à faire et aussi plein de capacités d'investissement, d'énergie, d'intelligence, d'ingénieurs. On doit pouvoir faire tout ça et le faire ensemble. C'est un beau défi, finalement. Et ne rien faire, je le dis là, c'est la responsabilité des politiques et moi, je serai très sévère. J'ai été dans un gouvernement, vous le savez, donc je sais aussi qu'on peut faire des choses. Le truc de dire « Ah, c'est trop compliqué », etc., c'est pas vrai. On peut agir, bien sûr qu'on peut agir.
Vous savez surtout qu'on ne peut rien faire.
Non, au contraire.
Par contre, faire des choses. Mais
bien
non,
sûr.
Pas à l'écologie, bien sûr que non.
Là, il y a l'économie versus
mais
l'écologie.
Mais c'est pas un débat, pardon.
C'est pas un débat, mais moi, je veux bien que ce soit un débat, parce que c'était pas la même chose il y a 20 ans qu'aujourd'hui, Apolline. Il y a 20 ans, on pouvait nous dire, ah, vous êtes alarmiste, c'est votre business de la peur. Mais sans déconner, qui se regarde dans leur glace, les gens qui osaient dire ça aux écologistes il y a 20 ans? C'est un scandale, parce qu'il y a des vrais responsables, et oui, on peut faire des choses. Oui, on peut investir dans les transports en commun. Oui, on peut investir dans les renouvelables. Oui, on peut moins cramer n'importe quoi. Et je termine là-dessus. Ceux qui nous donnent des leçons de sérieux, ce sont des gens qui ont développé des entreprises qui distribuent parfois plus de dividendes qu'elles font de bénéfices. Pourquoi ces gens donnent des leçons de sérieux alors que c'est eux qui nous emmènent dans la catastrophe? Moi, je veux qu'on travaille pour l'économie sociale et solidaire, pour une économie au service des gens, au service de l'humain et surtout au service de l'avenir de nos enfants.
Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC.
Pas énervée.
C'était pas un débat ce matin, mais ce sera un débat demain et c'est notre fierté, il faut le dire, sur RMC, d'avoir la voix de gauche, la voix de droite et les débats. Demain, vous débattrez avec Charles Consigny, la voix de droite. Ce sera à 7h50. Vous l'avez entendu, Emmanuel Le Chypre est dans ce studio. Dans un instant, il nous parlera des prix du carburant. Et il y aura aussi, évidemment, la météo et le journal. On se retrouve dans un instant sur RMC, 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h passé de 1 minute et c'est l'heure du journal sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce matin, c'est dur. Hein. Les corps souffrent après sans doute la nuit la plus chaude de la semaine, la fin de cette canicule espérée dimanche, mais des orages arrivent déjà par l'ouest. On va faire un point complet. On va vous raconter dans ce journal ce tragique guet-apens mortel à Narbonne où un jeune de 17 ans a été tabassé à mort. Et ce double séisme aussi de forte magnitude cette nuit au Venezuela. Le premier bilan est lourd, au moins 32 morts.
On vient sans doute de vivre la nuit la plus chaude de la semaine.
Oui, Géraldine vient de le dire, hein, à 6h ce matin, il faisait déjà 27 à Nantes, 26 à Paris, hein, la capitale, où la température a mis un temps fou à descendre sous les 30 degrés. Bref, nuit importante, nuit infernale, et c'était pareil ici à Étampes, écoutez.
Celle-là, elle était dure. Franchement, elle était dure par rapport aux anciennes. Je dormais peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je me réveillais, je me rafraîchissais, j'essayais de me rendormir, etc. Il faisait 31, 31 et demi chez moi, donc c'était dur. Je me sens fatigué et là, je manque de sommeil.
C'est catastrophique. On n'a pas dormi, j'ai un bébé à la maison, il n'arrive pas à dormir, le pauvre. On a pris 3-4 fois de douche à chaque fois. Et voilà, on essaye de faire avec ce qu'on a à la maison, un petit venti qui tourne tout seul comme ça. Et voilà, on ne dort pas.
On fait comme on peut et on dort pas. Donc vous l'entendez ce matin au micro de Martin Bourdin pour RMC à Étampes. Alors à l'instant, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, annonce que la canicule a fait des victimes, a fait des morts dans la capitale, mais sans donner plus de précisions, sans donner de chiffres. Hier soir, c'est la préfecture du Pas-de-Calais qui déplorait 3 morts de la chaleur dans ce département. Ce matin, il y a donc toujours 72 départements en alerte rouge pour la canicule. Mais Météo France dit déjà que 11 départements de l'Ouest en sortiront dans la soirée. Géraldine, est-ce que ça veut dire qu'on voit enfin le bout du tunnel?
Ah, effectivement, le Nord-Bretagne et la façade atlantique vont être les premiers à avoir baissé les températures. Donc, ils devraient sortir à 22h de la vigilance rouge, mais pour repasser en vigilance orange pour la canicule. Demain, on devrait par exemple repasser sous les 30 degrés à La Rochelle. Donc oui, on voit le bout du tunnel, même si pour la plus grande partie du pays, il faudra quand même attendre dimanche seulement pour pouvoir respirer. Et si on va voir ces températures baisser, c'est parce qu'on va avoir de violents orages. 10 départements en vigilance orange d'ailleurs pour ces orages. Il faudra être particulièrement prudent à partir de 16h sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, sur la Manche, et puis à partir de 18h pour l'Aquitaine, les Hautes-Pyrénées et le Gers. On attend de violentes rafales de vent à plus de 100 km/h et de la grêle et des dégâts qui risquent d'être importants, notamment avec une végétation fragilisée par la canicule.
Et alors à ça s'ajoutent les feux de forêt, risque élevé dans 48 départements, très élevé même dans deux autres, les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, ce qui est rare pour une fin de mois de juin. Et il y a encore tout un tas de conséquences, notamment dans les transports. La plus notable, c'est en Nouvelle-Aquitaine, hein, Luc Allobert. Aucun TER aujourd'hui entre 10h et 18h. Ce sera pareil demain pour préserver le matériel. Hein, c'est ce que dit la SNCF.
Oui, et dès hier, les trains ont été mis à rude épreuve. De nombreuses annulations et retards dans la région. De quoi faire vivre une journée de galère pour beaucoup de voyageurs, comme à Agen.
Votre train à destination de Bordeaux-Saint-Jean est supprimé en raison des conditions météorologiques. C'est pénible, là, ça devient pénible.
Il a fallu que j'appelle mon père à la rescousse pour qu'il vienne me chercher, parce que sinon, j'avais pas de solution.
C'est pour éviter que ces scènes ne se reproduisent que la circulation des TER a été aménagée. Priorité aux heures de pointe, le matin et le soir. Une décision sage, vu les conditions, selon Christian Broucaret, président de l'association d'usagers FNOT Nouvelle-Aquitaine, mais il craint que les galères ne se multiplient pour les voyageurs.
Les gens, ils viennent de travailler, ils vont à la fac, ils vont à l'école. C'est une contrainte de prendre un train plus tôt et de rentrer plus tard. La voiture, ça coûte cher. Il faut rentrer dans la ville, il faut stationner.
Et ces contraintes sont les conséquences directes du manque d'investissement sur le réseau, selon lui.
C'est l'État qui est propriétaire du réseau. Donc l'État n'a pas mis l'argent et on en paye les conséquences dans des conditions extrêmes comme aujourd'hui.
Au total, plus de 100 000 personnes voyagent chaque jour en TER dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Alors, quelles conséquences sur l'économie avec cette canicule? Le patron des Mousquetaires, Thierry Cotillard, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Et l'INSEE dira dans la journée quelle est l'ampleur de la dette au premier trimestre de cette année. Chiffre important puisqu'on est actuellement en pleine préparation du budget 2027. Cette nuit, je vous le disais, la Terre a tremblé de l'autre côté de la planète, au Venezuela. Deux séismes très puissants, coup sur coup. Des images impressionnantes. Les États-Unis proposent déjà leur aide, d'ailleurs. Un premier bilan très lourd. Un Romain Houck fait état ce matin de 32 morts et plus de 700 blessés.
Oui, c'est un bilan encore très provisoire qui risque bien de largement s'alourdir. Tant les images qui nous parviennent de la capitale Caracas et sa région sont impressionnantes. L'aéroport international est gravement endommagé. Des bâtiments complètement écroulés dans des nuages de fumée et de poussière. Un bruit assourdissant, des habitants pris de panique tentant de fuir les immeubles qui s'effondrent, et désormais les secours et des bénévoles qui s'affairent dans les débris à la recherche de survivants. Un film d'horreur, des scènes de guerre, disent déjà certains témoins. Il était 18h à Caracas hier soir, minuit à Paris, quand ces deux secousses successives se sont produites à moins d'une minute d'écart. Des séismes d'une magnitude de 7,2 et 7,5, une très forte intensité. Le tremblement de terre a même été ressenti jusqu'à Bogota, la capitale colombienne, pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau.
Je vous signale que les recherches reprennent ce matin à Biarritz, au lendemain de l'impressionnant effondrement d'un pan entier de falaise qui a tué une plongeuse qui se trouvait là dans l'eau au pied du phare à ce moment-là. Un autre plongeur est toujours porté disparu ce matin. 5 jeunes viennent d'être mis en examen et placés en détention à Narbonne après la mort d'un autre jeune de 17 ans. C'était en fin de semaine dernière. Histoire absolument abominable. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Ce jeune a été victime d'un guet-apens sur un chantier.
Oui, les images sont insoutenable à regarder. Un déchaînement de coups de pied, de coups de poing dans la tête et sur le corps complètement inerte de Louis, 17 ans, un jeune homme placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Pendant de longues minutes, il subit l'acharnement d'au moins 4 personnes, puis l'adolescent est abandonné au sol dans une cave en travaux. Il n'est découvert que le lendemain par un ouvrier pris en charge par les secours dans un état très grave. Il décède à l'hôpital. 5 suspects sont rapidement identifiés à partir des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont été mis en examen hier, selon le procureur de la République de Narbonne. De nombreux éléments laissent penser que les faits étaient prémédités et qu'un guet-apens a été tendu au jeune homme, mais à ce stade, on ignore les raisons de ce déchaînement de violence. S'agit-il d'une vengeance ? Existait-il une rivalité entre la victime et l'un des suspects ? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer.
On y voit de plus en plus clair ce matin dans le tableau final de la Coupe du Monde.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Brésil, Maroc, Mexique, Afrique du Sud, Suisse, Canada et Bosnie aussi en tant que meilleur troisième sont assurés de jouer les 16e de finale en attendant les 6 matchs de la soirée de la nuit prochaine et en attendant aussi les Bleus demain soir contre la Norvège sous la houlette, vous savez, de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, avec sûrement des changements dans le 11 de départ, Valentin Jamin.
Oui, au moins un changement par ligne alors que les Bleus n'ont que 4 jours de récupération. Aucun risque à prendre. Le défenseur central William Saliba, gêné au dos depuis des semaines, doit souffler et être suppléé par Maxence Lacroix qui va découvrir la Coupe du Monde. À sa droite, Malo Gusto, le joueur de Chelsea, est attendu à la place du titulaire Jules Koundé. Et au milieu, le madrilène Aurélien Tchouaméni n'est plus blessé et doit permettre à Adrien Rabiot, qui a tout joué, de se reposer. En attaque, les 3 stars, Dembélé, Olise et Mbappé, qui a marqué 4 buts, devraient être associés à un autre Parisien, soit Doué, soit Barcola. C'est bien Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa mère, qui tranchera en fonction de ce que ressent sur place son adjoint, Guy Stéphan. En revanche, difficile d'imaginer le sélectionneur communiquer à distance avec le staff pendant le match dans cette période compliquée. Il doit revenir à Boston ce samedi.
Et puis, faut que je recommence, faut que vous écoutiez l'ovation cette nuit. L'ovation... C'était pour Neymar. Neymar ovationné à Miami. Neymar qui est entré à un quart d'heure de la fin du match avec le Brésil durant la nuit. Le Brésil qui a gagné 3-0. 3 ans que Neymar n'avait pas joué avec son pays.
C'était donc le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de l'économie à 8h09.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Les cours du pétrole sont presque revenus à leur niveau d'avant-guerre. À quand pour les carburants alors ?
Oui, effectivement, hein, 72 dollars le baril cette nuit, quasiment le niveau qui prévalait avant le déclenchement de la guerre en Iran le 28 février. Sachant qu'entre les deux, on est passé par un pic à 114 dollars le baril. En fait, la tendance à la baisse sur les cours du pétrole, elle est amorcée depuis la mi-mai. En 6 semaines, les cours du brut ont perdu 40 dollars. La règle, c'est 1 dollar en moins sur le baril, 1 centime de moins à la pompe avec un décalage de 8 à 15 jours. Donc pour le moment, les prix du diesel et du samplon 95 ont reculé de 20 centimes depuis la mi-mai, compte tenu de ce décalage. Donc on est bien dans les temps de passage. Rien qu'avec la baisse des prix du pétrole enregistrée ces derniers jours, qui devrait être pérenne puisque le détroit d'Ormuz rouvre, il y a dans les tuyaux une petite vingtaine de centimes de baisse des prix des carburants, ce qui nous mettrait autour de 1,75€ le litre de gazole ou de samplon 95, disons aux alentours du 14 juillet.
Mais enfin, le compte n'y est toujours pas. Ce sera toujours 10 centimes plus cher qu'avant la guerre.
Vous comptez bien,
Oui, je vous écoute tous les matins, Emmanuel.
Et c'est vrai. Et là, ces derniers 10 centimes, eh bien, ils pourraient être plus longs à aller chercher pour plusieurs raisons. D'abord, le trafic via le Détroit reste plus coûteux et risqué qu'avant guerre, ce qui entraîne une hausse des primes d'assurance. Ensuite, les marges de raffinage restent plus élevées qu'avant la guerre. Donc ça joue sur 505 centimes à peu près le litre. Et puis, nous, Européens, maintenant, il faut tenir compte de la baisse de l'euro face au dollar qui augmente notre facture pétrolière qui est libellée, rappelons-le, en billets verts. Donc ça fait 3-4 centimes peut-être sur le litre. Donc il faudra peut-être attendre le mois d'août, voire septembre, pour retrouver vraiment les prix qu'on avait, c'est-à-dire, vous savez, 1,65 euros le litre.
Alors justement, précisément, aujourd'hui, là, à 8h11, on en est où des chiffres du jour ?
Le gazole, 1,89€ le litre. Le samplon 95, 1,90. Donc vraiment, on a retrouvé des niveaux de prix comparables. Le pétrole, 72 dollars, c'est quand même la bonne nouvelle. Et puis le gaz est stable à 41 euros le mégawatt.
Merci beaucoup Emmanuel, il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche va venir avec sa chronique humour à 8h30. Le face-à-face, mon invité, c'est le patron des magasins Intermarché, Bricomarché, Thierry Cotillard, ventilateurs, produits frais, glace. Certains supermarchés sont littéralement dévalisés avec les chaleurs. On va parler consommation, on va parler prix, on va parler pouvoir d'achat. Ça se passe donc sur RMC et BFM TV à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction et ce sera avec vous, Mathieu.
Et peut-être qu'au supermarché, vous avez acheté une clim. Récemment, c'est le débat depuis le début de la canicule. La clim va-t-elle nous sauver? La réponse en direct à 8h50. Et puis vous ne manquez rien des dernières infos de la Coupe du Monde, c'est le Mondial de Virginie.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
c'est tous les jours qu'Arnaud de Manche est avec nous. Mais là, aujourd'hui, il a pris une journée. Et donc, on va écouter le meilleur d'Arnaud de Manche sur la chaleur.
Bonjour Apolline Matin et bonjour l'équipe d'Apolline Matin. Tout le monde va bien?
Oui.
Vous n'avez pas trop chaud ce matin?
Je cuis,
je fonds, il fait chaud, c'est horrible. Et comme à chaque canicule, on a les bons conseils du gouvernement. Alerte canicule, pensez à bien vous hydrater. Pour cela, buvez de l'eau. Oh bah merci du conseil le gouvernement. Et attention, évitez également de rester sans chapeau à midi en plein soleil avec une doudoune. Pensez à éteindre le chauffage et n'écoutez pas trop de Zouk Caliente. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Victor, faisons l'amour ce soir.
Je peux dire non?
Tout de même dans le noir. Il fait trop chaud. Tu peux dire non. T'as intérêt à dire non, même. Pensez, parce qu'il fait trop chaud. Pensez à prendre bien ça, soin des personnes âgées. Mais alors, faites-le subtilement. Parce que moi, j'ai appelé à la maison. J'ai dit, allô, maman? Ça va? Vous tenez le coup? Vous avez pensé à vous hydrater? Dis donc, je te remercie! On n'est pas si vieux! Et là, ça part en débat et ça n'en finit pas.
Non, je vous
demande juste si vous avez trouvé un endroit frais. Et toi, t'as trouvé un vrai travail? Ton frère, il bosse au Crédit Agricole. Bon, ils n'ont pas l'air d'être assommés par la chaleur non plus, quoi.
C'est une situation, ça, humoriste. Alors, je garde des sceaux. Gérald Darmanin veut stopper l'immigration légale pendant 3 ans.
Oui, comme ça, l'administration française aura enfin le temps de traiter les dossiers de 2019, voire de 2020. Et pour fêter ça, Gérald Darmanin va commander une pizza. Alors, voyons voir. Votre livreur arrivera à 20h37. Eh ben, c'est parfait. Le 28 mai. Ah merde. 2031. Ah non, ça va pas du tout. Ouvrez les frontières. On s'en sort pas. Plus d'immigration pendant 3 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Europe 1? Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'émission. 3 heures. Eh oui, 3 heures. 180 minutes, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Il n'y a plus d'immigrés. Et l'émission va durer 3 heures. Et après, alors après, demain, il y aura l'émission de demain. Ne la loupez pas, elle va durer 3 heures aussi. Et on parlera de... pas d'immigrés, déjà. Et allez, l'émission est déjà finie. C'est déjà fini. Laurence Ferrari, c'est à vous. Oh non, c'est à vous. Non, c'est à vous. Les dames d'abord. Moi, ça m'arrange pas. Mon émission, elle dure 2 heures. Oui, bah, la mienne, elle dure 3 heures. Pareil au RN. Ils doivent paniquer. Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu. Ils ont dû avaler de travers. Tanguy et Chenu, vous voyez, c'est les deux figures les plus emblématiques sur le RN, à part Marine et Jordan. C'est un duo rigolo, quoi. C'est un peu comme une sitcom. C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy.
C'est moi le grand.
Et moi le petit.
C'est moi Chenu.
C'est moi Tanguy. Et nous sommes du même avis. Salut Chenu.
Salut Tanguy.
Dis donc Chenu, est-ce que t'as vu que Darmanin propose de supprimer l'immigration légale pendant 3 ans?
3 ans? Non mais alors là, mais vraiment, monsieur n'importe quoi. Mais on va parler de quoi aux Français? De notre programme économique?
Sinon, on pourrait leur parler de notre programme de politique internationale, il est super bien. Sinon, on pourrait parler d'écologie, on est crédible là-dessus.
Bon, bah, c'est un peu chiant. Les gens qui rigolent, vraiment, c'est pas au niveau.
Vous nous refaites le petit jingle, c'est moi.
C'est moi, Chenu. Réécoutez-le en podcast.
Il est très dur à faire la première fois. C'était magnifique.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
C'était le meilleur d'Arnaud de Manche. Il est 8h19 sur RMC. Tiens, vous êtes nombreux à nous appeler pour réagir évidemment à cette canicule, à la question du travail. Il y a Olivier qui est avec nous et qui nous appelle de Lyon. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Apolline, oui.
Olivier, je crois que vous vouliez répondre à Sophie Binet. Vous êtes vous-même artisan dans le bâtiment. Je rappelle que Sophie Binet, la patronne de la CGT, elle demandait un droit de retrait climat au-delà d'une certaine température.
Oui, bien sûr, oui, parce que bon, bah moi j'ai plus de salariés depuis des années parce que on était déjà massacrés par les charges et justement c'est par rapport à ça. Si vous mettez des gens, on va dire au chômage, vous les rémunérez comment? Enfin, ils vont bien toucher des indemnités. Donc si c'est pour que Madame Ursa vous tape encore plus sur la tête, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, moi ces gens-là, faut qu'ils aillent se cacher parce que si c'est pour proposer des trucs comme ça, c'est pas la peine quoi. Venir sur les plateaux pour faire du bavardage, de la discussion, quels que soient les gens, parce qu'on s'aperçoit que c'est que ça en ce moment.
On y va à sa petite réunion, à son petit, on va faire une cellule de crise et si et ça, mais en fait, il y a rien de pris quoi. En 2003, si je me souviens bien, il y a 26 ans, il y a eu une canicule, il n'y a pas eu un jour férié de prix justement pour les personnes âgées.
C'était effectivement le lundi de Pentecôte qui a été plus férié et puis finalement aujourd'hui c'est quand même un statut assez hybride et un peu compliqué. Mais Olivier, concrètement, bon, vous dites que vous n'en pouvez plus, qu'effectivement du coup vous n'avez même plus de salariés parce que vous ne voulez plus payer les charges, etc.
C'est en dehors de la canicule, bien sûr.
Olivier, quand il fait 40 concrètement, vous allez bosser là?
Bah moi je suis au boulot moi. Mais vous croyez que les artisans et les commerçants ils savent pas s'arranger le matin moi tous mes confrères, que ça soit les plombiers, moi je suis dans le bâtiment, enfin plus aménagement d'intérieur, mais que ça soit les plombiers, les couvreurs, bah ils commencent à 6h jusqu'à éventuellement 13h 14h, ils ont de l'eau à bon, parce que c'est pareil tout de suite les vilains artisans, les vilains patrons, mais faut pas oublier que la majorité des petits patrons, ils sont sur les chantiers avec leurs artisans, salariés, ils sont pas au bureau.
C'est d'ailleurs ce que disait Sophie Binet, parce que je lui faisais remarquer que vous étiez nombreux à nous appeler au 32-16 pour nous dire qu'en réalité, dans les faits, la plupart du temps, comme vous le dites, on s'adapte, on s'arrange, on se parle. Et d'ailleurs, elle le disait, Sophie Binet, quand je lui faisais cette remarque, elle a dit c'est vrai qu'une grande partie des petits patrons dans le bâtiment, dans le commerce, comme vous dites, eh bien, ils sont aussi sur le terrain avec leurs ouvriers. Merci en tout cas pour votre témoignage, Olivier. Prenez soin de vous. Donc Olivier, dans Lyon, est déjà au boulot. Il est 8h21 sur RMC, mais au boulot, donc plus tôt, il a commencé dès 6h ce matin. Dans un instant, je parle avec un patron justement, c'est le patron des magasins Intermarché du groupement Mousquetaire, Thierry Cotillard, qui répond à mes questions à la fois en tant que patron, tiens, je lui demanderai comment ça se passe avec ses salariés, même s'il travaille sous la clim dans les magasins, et puis sur notre consommation, sur nos prix. Il estime aussi que les politiques sont complètement déconnectées, il veut leur lancer un appel. Ça se passe sur RMC et BFM TV dans un instant, à tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et on vient de vivre la nuit la plus chaude de la semaine à Paris, à Nantes aussi. 26 degrés à 6h du matin et la température qui a mis un temps fou à descendre sous les 30 degrés dans la capitale. Il y a toujours 72 départements en alerte rouge pour la canicule hein, ce matin, mais on sait déjà que 11 départements de l'Ouest vont en sortir de cette vigilance dans la soirée, avec au passage eh bien, des orages. 10 départements de Bretagne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine sont en vigilance orange pour ces orages. Il y en a déjà eu un violent hier soir en Charente-Maritime, il a balayé le village de Loulé et il a soufflé notamment la toiture d'un gymnase dans cette commune. Conséquence de la canicule, des victimes à déplorer à Paris, c'est ce que dit le maire de la capitale Emmanuel Grégoire, sans donner plus de précision. Et aucun TER dans le sud-ouest aujourd'hui, demain de 10h jusqu'à 18h. La journée donc pour préserver le matériel, explique la SNCF. Les recherches reprennent ce matin à Biarritz, au lendemain de l'impressionnant effondrement d'un pan de falaise qui a tué une plongeuse qui se trouvait au pied du phare. À ce moment-là, un autre plongeur est toujours porté disparu. L'info de la nuit, c'est le bilan d'au moins 32 morts et 700 blessés au Venezuela après le double séisme de forte magnitude dans ce pays d'Amérique latine. Des bâtiments effondrés avec des scènes de panique à Caracas. Et puis la Coupe du Monde de foot à la veille de France-Norvège, le Brésil, le Maroc, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Suisse, le Canada et la Bosnie en tant que meilleurs troisièmes ont assuré leur place cette nuit pour les 16e de finale.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, on va parler consommation. Avez-vous changé vos habitudes depuis le début de la canicule? Je poserai la question à celui qui est vraiment aux avant-postes de la vie des Français, le patron des supermarchés Intermarché, Thierry Cotillard. Il vient évidemment nous parler prix, inflation et canicule. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Cotillard.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron des magasins Intermarché, Bricomarché, Netto, le président du groupement Les Mousquetaires. Très nombreuses questions à vous poser. Évidemment sur la canicule, la façon dont les Français s'adaptent, dont vos employés aussi s'adaptent partout sur le territoire. La question des prix, la question des carburants. Et puis aussi plus globalement, votre regard sur ces politiques qui, d'après vous, sont de plus en plus déconnectées. Vous nous direz pourquoi. Mais d'abord, ce que vous voyez, vous, dans les magasins, du côté à la fois des salariés et du côté des consommateurs, cette canicule qui s'est abattue et qui dure sur la France, elle a quoi comme conséquence?
Alors déjà, je voudrais avoir une pensée hein, pour tous nos salariés, toutes ces femmes et hommes qui travaillent dans des conditions, il faut reconnaître, difficiles, dans nos entrepôts, dans nos outils de production, dans nos points de vente, même s'il y a la climatisation. Mais les nuits sont pas plus fraîches et ils sont là tous les matins pour tenir la chaîne alimentaire. Donc je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux et les remercier. On a évidemment une conséquence de ça dans nos magasins. Déjà, il faut le dire, on a un trafic qui est plus important, tout simplement parce que
les gens viennent plus.
Exactement, ils vont venir.
Ils
viennent chercher la fraîcheur. Et puis lorsqu'ils sont dans nos supermarchés, la consommation elle est totalement différente des semaines passées où il n'y avait pas ces températures. Donc on assiste à l'explosion de ventes, évidemment des glaces, de l'eau. La proportion, c'est on double les volumes.
On double les volumes
puisque sur les eaux, on est à 80% de progression. Les glaces, on est à 50%. Et après, vous avez les familles de produits qui, évidemment, répondent à leurs besoins. C'est la fraîcheur des produits frais, notamment des fruits et légumes, où sur le melon, on fait plus 50%.
Et les gens restent davantage. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, dans vos magasins, ils n'en ressortent pas si vite.
Ouais, ça, je veux dire, ça traîne en magasin et il y a pas de sujet de sécurité, il y a pas de sujet. En tout cas, il y a un vrai confort. Je pense que c'est la même chose dans les grands centres commerciaux, c'est la même chose dans les cinémas. Et donc, effectivement, c'est un lieu paisible où il fait bon vivre en ce moment.
Donc, l'alimentation, on imagine évidemment, et là, c'est peut-être plus chez Bricomarché qu'il y a les clims, les ventilateurs, tous les produits qui rafraîchissent. Vous en êtes où et est-ce que vous arrivez à répondre à la demande?
Alors, on a des records de ventes. Vous avez cité Bricorama, Bricomarché, on a aussi Bricocash. C'est 100 000 ventes sur la seule semaine dernière. C'est énorme, c'est x5 par rapport aux habitudes.
De quoi? De ventilateurs, de clim?
Ventilateurs et clim avec une première position pour les climatisations. Elles sont plus vendues que les ventilateurs. Et la réalité, je vais pas vous mentir, c'est qu'on est en rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des magasins qui sont en attente d'approvisionnement pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Donc on a été surpris parce que c'est venu violemment. Et puis vous savez bien que c'est des produits qu'on fabrique pas en 15 jours. Ça vient, il y a un délai de production et donc on est en train de trouver des nouveaux fournisseurs pour nous approvisionner.
Des nouveaux fournisseurs, vous allez pouvoir répondre à la demande là dans les jours qui viennent.
C'est en train d'arriver. Les ruptures, ça dure 24-48 heures. Et puis vous savez, on est aussi un réseau qui est bien implanté. Donc on se passe de la marchandise d'un magasin à l'autre pour pouvoir répondre.
Mais ça veut dire aussi, quand je vous écoute, vous, et hier, à ce même micro, j'avais la patronne d'Europe Écologie Les Verts, enfin des écologistes comme ça s'appelle désormais, Marine Tondelier. C'est un débat qui est devenu politique. On a l'impression que la clim serait de droite, que les anti-clim seraient de gauche, que ça devient un clivage. Alors même si, petit à petit, il y a une forme de consensus. Vous dites, les Français, c'est ni de droite ni de gauche, ils veulent la clim.
Mais non, point mais c'est très factuel, c'est du bon sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, le sujet de fond, c'est la rénovation probablement de l'habitat et les passoires thermiques qu'on a en France, où ça fait très froid à l'hiver et ça fait très chaud l'été. Et donc, il faut, qu'on soit de droite ou de gauche, un plan de rénovation de l'habitat, comme il faut un plan de relance de la construction, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais en fait, les bricomarchés font du chiffre cette semaine, le font depuis 15 jours. Mais c'est un marché qui recule depuis 3 ans. Et on recule parce que la France n'a pas un programme pour permettre aux Français d'avoir une première propriété, une première maison, une première habitation. Donc, l'arrêt de la construction fait qu'évidemment, les gens qui nous achètent les parpaings, les gens qui nous achètent du gros matériel ne le font plus. Tous les artisans sont à l'arrêt et c'est ça qu'il faut relancer.
Et ils se retrouvent du coup à devoir gérer l'urgence et l'urgence c'est la clé.
Exactement. Donc ayons une vision, c'est le moment de l'exprimer puisqu'on est à l'approche des présidentielles. Qu'on soit de droite, de gauche, il faut absolument qu'il y ait un plan de relance de la construction, de l'habitat et la rénovation pour éviter les passoires thermiques.
Une question sur le travail, Thierry Cotillard. Est-ce que vous avez adapté les horaires? Vous le disiez, dans les magasins, certes, il y a la clim, mais il y a tous ceux qui travaillent dans la manutention derrière, dans les livraisons, dans le transport. Est-ce que les horaires ont été adaptés?
Alors, il y a eu un débat, est-ce qu'il faut un congé climatique, etc. Moi, je suis pas favorable à ça. J'ai envie de vous dire, on met du bon sens. Alors, pour une grande partie de nos équipes, on bénéficie de la clim dans les magasins. C'est un confort et pour eux ça va bien. Après, la réalité c'est que dans le magasin, vous avez la partie arrière du magasin qui est en fait la réserve du magasin où là on va frôler les 40-45 degrés. Donc on y met du bon sens. Vous voyez, pendant le match de foot, on fait une pause et on va faire une pause d'hydratation.
La pause fraîcheur, vous l'avez mis en place aussi.
Et puis sur certains entrepôts, on attaque un peu plus tôt, on a modifié les horaires. pour justement permettre aux salariés de vivre dans des conditions de
travail. Vous n'avez donc pas besoin, vous estimez que vous n'avez pas besoin d'un congé climatique à proprement parler, voire même le congé climatique, ça c'est les écologistes qui le portent, la CGT, je recevais Sophie Binet ce matin, qui demande elle un droit de retrait, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, on puisse faire valoir son droit de retrait.
Oui, alors, vous avez compris l'objet de ma première intervention qui était de remercier nos salariés, c'est que si on se met tous en retrait, comment on fait pour nourrir la France? Donc il faut remettre du bon sens, et je crois que la proximité managériale et le dialogue social qu'on a doit permettre de trouver les solutions. Il faut qu'on arrête en France, à chaque fois qu'il y a un problème, de vouloir trouver la solution par une loi, un décret. Heureusement, les Français sont quand même ont du bon sens et savent réagir.
Donc, pas question ni d'un droit de retrait, ni d'un congé climatique. Il y a aussi la question des prix, et des prix à la pompe d'abord. Ça baisse, le prix du baril baisse beaucoup, oui. Le prix à la pompe baisse un peu, mais il est encore assez nettement au-dessus du prix d'avant-guerre. Quand est-ce que, à ceux qui nous écoutent là ce matin, vous qui faites partie de ces distributeurs, quand est-ce que ça va revenir à avant?
On a connu le pire de la crise, c'était 2,40. On est à 1,90, ça fait 50 centimes de moins. On est toujours 20 centimes au-dessus de, j'allais dire, la normale. Il y a une stabilité, en fait, je vais pas m'aventurer à faire un pronostic, parce que vous voyez bien qu'en fonction des déclarations de Trump et l'évolution du contexte géopolitique, ça va varier. Ce qui est sûr, c'est que plus on ira vers la stabilité et l'arrêt d'un conflit, plus on a de chances de retrouver le prix d'avant. Et le prix d'avant, il y a encore 20-30 centimes qui manquent aujourd'hui pour retrouver.
On peut ou on va?
Si la situation géopolitique est sous contrôle, on va le retrouver, puisqu'en fait, c'est les tensions géopolitiques qui créent effectivement cette tension sur la matière première et le prix à l'essence qui varie. Ce qu'il faut retenir, c'est que on l'a expliqué, on est venu vous le dire, et mes confrères aussi, c'est un produit d'appel. Donc, dès que ça baisse, on baissera. Et là,
vous ne ferez pas de la rétention de prix, quoi.
Non.
Vous avez vous-même intérêt à ce que ce prix soit bas.
Il y a une vraie compétition commerciale. Vous savez, les Français, ils passent d'un parking à l'autre, ils voient les prix.
Ils voient sur le totem.
Évidemment, donc on a aucun intérêt à le faire. Et ce qu'on va faire là pour le départ en vacances, qui arrive là, c'est dans 15 jours, le 4-5 juillet, on fera une opération prix coûtant. C'est-à-dire qu'on vendra vraiment.
Le 4 et 5 juillet, exactement, opération prix coûtant.
Dans tous les intermarchés.
Ça veut dire que ça sera à combien à peu près? Enfin, je veux dire, ça peut encore baisser d'ici là, mais.
On va pas baisser à 1,50 puisqu'on vous l'a expliqué, c'est 2, 3, 1 centime de marge. Donc, au lieu de 1,88, ce sera peut-être 1,86. Mais au moins, le consommateur saura que chez nous, ce sera le prix le plus bas du marché.
Prix coûtant le week-end, donc, du 4-5 juillet. Emmanuel Le Chypre disait qu'il estimait autour du 14 juillet le fait de pouvoir encore baisser assez. Est-ce qu'il y aura un autre palier en août?
On espère qu'en gros à la rentrée ce soit terminé, quoi. Ce serait la meilleure des nouvelles pour les Français.
Parce mais pas avant, pas pendant l'été.
Ça paraît difficile.
Il va falloir cet été. Se résoudre à une essence.
Se résoudre encore à quelque chose entre 1,60 et 1,90 certainement.
La question des prix, c'est aussi les prix dans les rayons. Vous avez été accusé, et notamment par cette commission, mais aussi par les industriels, au fond, de faire du gras et de pousser les prix. Que les prix, ce ne seraient pas les industriels, eux, qui les feraient monter, mais vous, la grande distribution. Et vous avez décidé de lancer votre propre pub, en quelque sorte, comme si on avait besoin d'entendre que c'était vous qui étiez du côté du pouvoir d'achat des Français. C'est quoi? C'est du marketing, ou c'est vrai?
On a très mal vécu ce rapport qui était très à charge contre la distribution, qui d'ailleurs annonçait
l'Assemblée nationale,
qui annonçait un chiffre faux en disant sur 100 euros, 40% va à la grande distribution. Et en fait, ils ont reconnu que c'est totalement faux. C'est 40%, 40 euros vont dans tous les secteurs de distribution, ce soit les cantines, les restaurants et la grande distribution qui lui prend 9 euros. Et quand on prend 9 euros, à la fin, vous le savez, il reste moins d'un euro ou un euro. Donc ce qu'on a voulu depuis lundi, d'ailleurs mon confrère, le patron de Carrefour est venu vous l'expliquer, et je suis là pour en remettre une couche, c'est qu'on a voulu apporter de la pédagogie. C'est-à-dire que aujourd'hui, et on s'adresse pas forcément aux multinationales, parce que j'ai envie de vous dire, elles sont dans leur rôle, elles sont dans leur jeu de vouloir...
On parle de Coca, on parle de Danone, on parle aussi des PME.
Oui, mais notre cible, elle est sur les grosses multinationales. Parce que quand on attaque les négociations, pour vous donner un ordre d'idée, les petites et moyennes entreprises, depuis 2-3 ans, arrivent avec des hausses de tarifs de 4%. Toutes les grandes marques arrivent avec des hausses de 8 à 10%. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer depuis lundi? On a pris 12 produits. Les plus connus, vous venez de les citer, Coca-Cola, Nutella, le granola. On a pris le prix qu'on avait acheté en 2021 et on l'a comparé au prix actuel. Donc, un panier qui coûtait 37 euros, aujourd'hui, le même consommateur français le paye 51. Mais on a été plus loin. On a dit, si on n'avait pas fait la négociation, combien il aurait payé? et il aurait payé 72 euros. Donc vous comprenez.
C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que vous allez désormais vraiment le dire haut et fort. Vous en faites une pub. Vous montrez ce panier avec donc les 12 produits de grande consommation dont vous parliez à l'instant. Vous dites avant négociation c'était 71,49 €. Après vos négociations c'est 52,12 €.
Oui. C'est exactement ça. Et on part d'un prix qui était à 37.
Donc enfin, c'est vous qui avez choisi les produits en même temps.
On les a choisis.
J'imagine que c'est oui, ceux que vous avez réussi à négocier le plus.
Non, pas forcément, parce qu'en fait, la moyenne de la négociation, c'est qu'en général, on arrive à enlever la moitié du tarif. Quand on nous propose 5, on arrive à 2 ou 2,5.
Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous redoutez?
On fait ça parce qu'en fait, on pense que le politique à une totale négation de notre métier de négociateur. Et on trouve ça extrêmement dangereux, surtout à quelques mois de la présidentielle, où on se dit, en fait, si on nous interdit de pouvoir négocier, ne pas négocier, c'est avoir des tarifs qui vont être en augmentation et donc un pouvoir d'achat qui va être attaqué en France. C'est-à-dire que le même pot de Nutella aujourd'hui, au lieu d'être à 6,80 €, on va dire en moyenne sur le marché français, il va passer à 10 €. Le Coca-Cola passera à 3 € au lieu de 2,40. Donc on veut bien tout, mais on veut surtout prévenir que s'ils prennent la mauvaise loi, on ne veut pas être les responsables de cette inflation, mais ce seront les politiques.
Là, vous nous parlez de Coca, vous nous parlez de Nutella, mais qu'en est-il de la viande française? Qu'en est-il des produits français, des produits frais?
Alors, on a
nos agriculteurs. Parce que j'imagine que le Nutella, il y a pas beaucoup
qui vient
de nos agriculteurs.
Et si vous voulez, c'est là où il y a un sujet, c'est que cette loi, elle est là pour répondre à l'urgence agricole. Donc, il faudrait une loi où on nous impose, par exemple, la transparence sur le prix payé, puisque nous, on n'a pas l'achat direct de toutes les matières premières agricoles. Vous comprenez, c'est entre nous et l'agriculteur.
On rappelle comment ça marche. En gros, il y a 3 acteurs. Il y a la matière première, c'est-à-dire l'agriculteur, pour faire vite. Il y a l'industriel, c'est-à-dire celui qui transforme ce produit brut en produit qu'on achète. Et ensuite, il y a vous qui achetez les boîtes de biscuits ou le pot de Nutella. Ok. L'industriel, c'est lui qui négocie avec l'agriculteur. Vous ne savez pas au départ,
à 80%.
Sauf pour vos propres marques de distributeurs, mais vous ne savez pas, vous, quelle pression il a mis sur l'agriculteur au départ, c'est ça? Demandez à ce que quand il vous vend, je sais pas moi, son jambon Hertin, il vous dise quelle est la part qui revient à l'agriculteur.
On demande deux choses. On demande déjà l'origine. Le porc est-il français lorsqu'on achète le jambon Hertin? Ce qui n'est pas le cas dans la moitié des cas. Il est espagnol ou allemand.
S'il y a marqué porc français?
Il doit pas le mettre puisque il est fabriqué en France. C'est pour ça qu'il a bleu, blanc, rouge. C'est que l'abattoir est en France et l'outil de production est en France.
Mais le porc, il peut avoir grandi.
Le porc vient d'avant. Donc c'est pour ça qu'on pousse deux choses. On dit, il faut être très clair. Il faut une obligation de transparence vis-à-vis de nos consommateurs. Donc on veut savoir non pas où est fabriqué le produit, mais d'où vient la matière première. Donc l'origine info, ça devrait être quelque chose qui devrait être obligatoire. Aujourd'hui, c'est facultatif. Et la deuxième chose, c'est évidemment cette transparence. Quel est le prix que Hertha paye auprès de ses producteurs de porc? On n'a pas cette réalité-là. Nous, je peux vous en parler, on a des abattoirs chez Intermarché et donc on a des contrats avec des éleveurs bretons ou de France.
Donc vous pouvez faire la comparaison.
On fait la comparaison et nous, on a des contrats qui définissent des prix où justement pour les protéger, on a calculé le coût de revient de ce qu'a besoin l'agriculteur pour vivre et on va le rémunérer au-dessus.
On a parlé d'Hertha, mais ça pourrait être Fleury Michon ou Le Gaulois. Thierry Cotillard, votre compère, Alexandre Bompard, lui, il dit, donc Carrefour, il dit l'inflation n'augmentera que très peu cette année. Michel-Édouard Leclerc, à l'inverse, dit il va y avoir une très forte reprise de l'inflation. Vous dites quoi?
Je vais pas mettre entre les deux. Je vais vous raconter, nous, la lecture qu'on a, il n'y aura pas d'inflation. Elle sera maîtrisée. Elle est en gros autour de 1% cette année en 2026. Et en fait, malgré effectivement les conflits géopolitiques et l'inflation qu'on peut avoir de certains produits, l'essence, certes, on ne vit pas le choc de matières premières qu'on a connu pendant la guerre en Ukraine, puisque les matières premières, notamment agricoles, n'ont pas explosé. On n'est pas en pénurie. Ça veut donc dire qu'il y a des clauses dans les contrats qui prévoient avant tout choc, de revoir le prix s'il y avait des événements comme cela. Et quand on regarde les clauses, ce qu'on appelle des clauses de revoyure, rien ne s'activera cette année.
Rien ne justifie qu'elles s'activent.
Très rare exception.
Certains vous les ont demandé.
Certains, très rares, ceux qui ont un impact fort comme les minéraliers, ceux qui vendent de l'eau, puisque le plastique a explosé. Mais c'est vraiment l'exception. La généralité aujourd'hui ne justifie pas une inflation. Le sujet va venir, par contre, en mars 2027 pour les prochaines négociations.
On va y venir parce parce que vous voulez rencontrer les différents candidats à la présidentielle, mais Thierry Cotillard, sur la question de la hausse des prix, la canicule actuelle va-t-elle avoir une conséquence aussi sur le prix des produits agricoles, justement, sur les fruits, les légumes, sur la viande?
Oui, malheureusement. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des productions qui sont en train de baisser. Hier, j'étais avec des producteurs de lait de notre laiterie Saint-Père. Émilie, Élodie nous expliquaient que, évidemment, la vache, elle produit 20% de lait en moins. Les conditions d'élevage sont très difficiles. Il y aura de la mortalité aussi. Mais surtout, pour la production maraîchère, il y aura des productions qui vont pas sortir de champ parce qu'on va manquer d'eau. Donc, le melon qui, aujourd'hui, n'est pas en pénurie, je vous le dis, il y a des vrais risques de pénurie dans 3-4 semaines parce qu'on n'en aura plus. Et à ce moment-là, les prix vont flamber puisque l'attente des Français sera toujours là pour avoir du melon, mais l'offre sera moindre. Donc, on va pas être à 2,60 ou 2,80 le melon, mais on risque d'être beaucoup plus cher.
Vous anticipez donc à la fois pénurie et donc, puisque tension, hausse des prix. Je le disais, vous rencontrez les différents candidats à la présidentielle. Je crois que vous avez déjà rendez-vous avec Gabriel Attal. Vous aurez rendez-vous avec tous?
On va tous les voir. On ne les voit pas à titre individuel. C'est pas le patron de Carrefour ou d'Intermarché qui les voit, c'est le patron,
c'est le représentant de la grande distrib, quoi.
C'est le secteur, c'est-à-dire la fédération du commerce qui les reçoit. Donc l'ensemble des patrons de la distribution vont recevoir l'ensemble des partis de gauche, de droite et tous les partis représentés à l'Assemblée nationale.
Y compris LFI, RN.
Et on va leur donner le même temps de parole.
Ça vous pose aucun problème? C'est-à-dire que vous considérez désormais qu'il faut traiter tout le monde pareil?
On considère que ce sont des représentants des Français et que on doit justement s'adresser à eux pour leur donner notre lecture économique des sujets, des problèmes, en espérant qu'ils puissent apporter une solution.
C'est quoi votre lecture économique aujourd'hui? Vous avez exprimé que pour vous, les politiques étaient, je cite, déconnectées de la réalité politique. Je recevais Patrick Martin, le patron du MEDEF, il y a deux jours, qui lui considérait même que la France décroche, qu'ils n'ont pas pris la mesure d'un certain nombre d'évolutions partout autour, sauf chez nous. Quelle est votre lecture à vous?
Moi, j'ai cette lecture-là. Je pense qu'il y a une déconnexion, il y a une méconnaissance du monde économique. C'est souvent des gens qui n'ont fait carrière que dans la politique et jamais dans l'entreprise. Donc ces échanges-là, j'espère, leur permettent de se mettre à niveau. Donc on attend plusieurs choses. La simplification, on est dans un pays énorme. On s'attend surtout, comme un chef d'entreprise, à s'attaquer à la dette publique. Pour qu'on arrête à chaque fois de demander un nouvel impôt, une nouvelle taxe pour solutionner le déficit budgétaire. Et puis, j'aimerais bien que ces politiques aient la vision qu'on a, nous, de chefs d'entreprise, c'est-à-dire des plans de croissance. J'ai commencé l'intervention en disant il faut un plan de relance de la construction. Il faut aussi faire de l'alimentation une cause nationale pour être sûr que nos agriculteurs
vivent. Mais ça veut dire quoi, faire de l'alimentation une cause nationale? Je veux dire, au-delà du slogan.
Eh bien, que le ministre de l'Éducation travaille avec le ministère de l'Agriculture pour qu'on ait des cours dans les écoles pour enseigner les fruits de saison, pour réexpliquer que le produit ultra transformé peut être dangereux pour sa santé.
Mais est-ce que tout ça n'a pas été déjà un peu fait? Les 5 fruits et légumes par jour?
Non, on n'a pas assez fait, puisqu'on a passé aussi notre temps avec les derniers gouvernements à voir les ministères. C'est des projets qui sont à l'étude et il faut absolument que ce soit mis en haut de la pile pour le programme présidentiel de 2027.
Comment va le loup?
Le loup va bien. Il a rendu visite à certains enfants malades dans les hôpitaux. On est très contents de cette sortie. Ça leur a fait du bien.
Merci beaucoup Thierry Cotillard d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président donc du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Bricomarché, Netto et autres. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h47 sur RMC. Le mondial de Virginie, c'est avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Dans un instant, les toutes dernières infos sur la Coupe du Monde. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Louis Salé, c'est dans une minute sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Neymar a joué cette nuit. Vous allez nous le raconter, Virginie, dans le mondial de Virginie dans un instant. Mais d'abord, le choix de la rédaction. Bonjour Louis Salé.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service société d'RMC. Face au réchauffement climatique, le débat sur la climatisation est relancé. Les Français s'équipent de plus en plus. Un quart des logements sont climatisés, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et selon le réseau de transport d'électricité, la moitié des logements français seront équipés en 2035. Mais est-ce que ça a des conséquences?
Alors oui, évidemment, hein, mais attention, il ne s'agit pas du tout de dire que la clim, c'est mauvais. La preuve, on en discute bien au frais dans ce studio. L'idée, c'est plutôt de comprendre quels sont les impacts négatifs et si on peut les limiter. Alors le principal problème, c'est la chaleur qui est rejetée. Démonstration dans une rue parisienne devant la sortie d'une climatisation avec un thermomètre tenu par Vincent Viguier, chercheur en économie de l'environnement.
Dans cette rue, à l'ombre, il est à peu près midi, il fait aux environs de 35 degrés. On a mis un thermomètre devant la bouche d'air chaud d'un climatiseur de la rue.
fait, la température de l'air en sortie du climatiseur est proche des 53 ou 54 degrés. Là, c'est l'air qui est juste en sortie du climatiseur. Cet air va se mélanger dans la rue, mais ça va contribuer à une augmentation des températures dans des rues étroites. Des études ont montré que l'augmentation de température pouvait monter jusqu'à 10 degrés.
À l'échelle d'une ville en pleine canicule, la température peut augmenter d'environ 2 degrés globalement à cause de ces rejets d'air chaud. Dans les lieux végétalisés, l'effet est un peu limité. Et puis si les clims sont en hauteur, la chaleur est moins concentrée. Donc les installer sur les toits, par exemple, peut être intéressant.
Alors attendez, est-ce qu'il y a une différence selon les modèles de clim?
Oui, les petits climatiseurs, alors certes moins chers, plus pratiques, sont très énergivores. C'est un peu comme les grille-pains là qu'on utilise comme un chauffage d'appoint l'hiver. Leur efficacité est réduite parce que vous faites passer le tuyau par une fenêtre entrouverte. Ils consomment beaucoup et sont aussi plus susceptibles d'émettre des fluides frigorigènes. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des gaz qui réchauffent l'atmosphère jusqu'à 2000 fois plus que le CO2. Heureusement, la réglementation est en train de se renforcer pour limiter la présence de ces gaz.
Et alors, est-ce que certains modèles sont plus vertueux?
Les climatiseurs fixes installés par un professionnel sont moins concernés par ces fuites de gaz. Ils sont bien entretenus aussi. Ils sont évidemment plus chers, plusieurs milliers d'euros souvent en comptant la pose, même s'ils sont moins coûteux sur le long terme en énergie. La solution la plus satisfaisante, c'est la pompe à chaleur réversible. C'est un système qui va vous réchauffer l'hiver et vous refroidir l'été.
Mais alors Louise, une dernière question. Est-ce que notre production électrique peut supporter autant de clim partout?
Si on veut que l'énergie soit décarbonée, issue du nucléaire et du renouvelable, il va falloir en produire plus, ça c'est certain. Nicolas Goldberg est expert énergie chez Columbus Consulting.
Aujourd'hui, on n'a pas de problème pour approvisionner la France en électricité, même si tout le monde démarre sa clim. Par contre, en période de canicule, on a une consommation électrique supplémentaire qui est significative, qui équivaut à 10 à 12 centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a démarré des centrales au gaz. Et ça, dans les années à venir, ça pourrait s'accentuer si on s'éclipse plus en clim. Et donc, il nous faut plus de production électrique décarbonée.
Et pour que la climatisation ne tourne pas à plein régime l'été, il faut aussi qu'elle soit accompagnée d'autres solutions de rafraîchissement, végétaliser les villes, équiper les bâtiments de stores et de volailles, puis surtout les isoler. Si vous climatisez une passoire thermique, c'est comme en hiver, vous allez avoir des pertes d'énergie très importantes.
Merci beaucoup, Louise Salé, journaliste au service société d'RMC. Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. On va parler de la Coupe du Monde.
RMC. Le mondial de Virginie.
Et ça y est, Neymar a commencé sa Coupe du Monde. Il est entré en jeu lors de la victoire du Brésil. 3-0 contre l'Écosse.
Trois ans qu'il n'avait plus joué avec le Brésil. Et là, cette nuit, Neymar est réapparu. Carlo Ancelotti l'a fait entrer pour le dernier quart d'heure du match contre l'Écosse sous les ovations du public de Miami. Alors Neymar, il n'a pas marqué, pas besoin, le Brésil menait déjà 3-0 quand il est entré en jeu, le score en est resté là, mais ne serait-ce que sa présence redonne le sourire à tout le peuple brésilien.
Le Belge Jérémy Doku est lui de retour auprès de sa sélection après la naissance de son fils.
Un retour triomphant auprès de son équipe après son aller-retour express à Londres, la Fédération Belge parle de la passe décisive la plus importante de sa vie. Bon, je suis pas sûr qu'on soit obligé de mettre des termes de football là-dedans, mais pourquoi pas après tout. La maman et le bébé vont bien, c'est un garçon. Il s'appelle Praise. I have to celebrate
you, baby. C'est
Fatboy Slim, Praise You, chanter les louanges pour traduire, voilà.
Alors, on connaît l'arbitre de ce France-Norvège de vendredi.
Ce sera l'anglais Michael Oliver, un arbitre très expérimenté. Les Bleus peuvent avoir l'avantage de l'arbitrage, figurez-vous, parce que c'est évidemment le retour des polémiques sur l'arbitrage, on n'y manque jamais. Certaines voix dénoncent un arbitrage à deux vitesses, fort avec les faibles, faible avec les forts. Un joueur du Paraguay a été puni d'un carton rouge pour avoir mis sa main devant sa bouche pour parler à un adversaire turc. C'est désormais interdit par la FIFA pendant cette Coupe du Monde. Alors que l'anglais Jude Bellingham, il a fait exactement la même chose pour s'adresser au Ghanéen Jordan Ayew, et c'est pas ses crèmes.
Le président de la FIFA est très content des pauses fraîcheurs pendant cette Coupe du Monde.
Ça en fait au moins un. On va accompagner maintenant les meilleures déclarations de Gianni Infantino. Eh oui, sauf que lui, il blague pas.
Vous promettez tous les matins.
Je vous le promets. Ce sera pas difficile à trouver. Il fait un premier bilan de la Coupe du Monde. Ce mondial est incroyable. C'est l'événement le plus réussi de l'histoire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous me direz. D'ailleurs, je vais me permettre de le dire, je pense que cette chronique est la plus réussie de l'histoire. Attendez, j'y ajoute ceci. La pause fraîcheur, Gianni Infantino, oui, on est très content. Il trouve que dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est important pour les joueurs d'avoir des moments pour se reposer. Il déçoit jamais.
Et les Bleus sont là pour conquérir une troisième étoile.
Alors les étoiles sur le maillot, le trophée à Clairefontaine, mais surtout des pierres en forme d'étoile. Vous vous souvenez que la ministre des Sports avait offert des pierres porte-bonheur aux Bleus avant le Mondial. Marina Ferrari s'explique, c'est des pierres en forme d'étoile qu'elle leur a donné. Une bleue pour la réussite, une en cristal de roche blanche pour lutter contre le stress. Et elle leur offrira la rouge, la troisième, s'ils gagnent cette Coupe du Monde. Rouge.
Comme un soleil couchant de Méditerranée.
C'est vraiment la meilleure chronique de l'histoire. Il y a c'est du Sardou et du Fatboy Slim.
Honnêtement, s'ils ne sont pas motivés avec ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour eux.
Merci beaucoup Virginie, la Coupe du Monde à suivre avec RMC bien sûr. Avec la Dream Team d'RMC, vous avez 4 champions du monde pour tout analyser, tout comprendre. Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG, quel est le programme mon cher Alain Marchal? Bonjour.
Bonjour à tous, on reparlera bien sûr de la canicule. Est-ce que l'État s'est bien organisé? C'est ce que dit la ministre de la Transition écologique, Madame Barbu. Vous venez commenter ça, bien sûr, avec nous au 32-16, ou est-ce que c'est plutôt le gouvernement de la com qu'on a sur la canicule? L'hôpital va-t-il tenir? Question que l'on pose, et on appellera notre médecin Jérôme Marty. Est-ce qu'on doit travailler, ou arrêter de travailler plutôt, à partir d'une certaine température? Ça fait partie des propositions. Et puis on reparlera du tabassage de ce jeune homme qui est mort à 17 ans à Narbonne, avec encore une fois de multiples fractures, plaies au visage, c'est-à-dire il est tombé dans un guet-apens. C'est des jeunes de l'ASE, entre autres. Lui, il était à l'aide sociale à l'enfance. Il a été frappé, matraqué au visage. Voilà, vous venez commenter ça avec les GG. Et puis, on aura la grande gueule du Parti communiste, Fabien Gay, avec nous. Il est sénateur de Saint-Denis. À tout de suite.